Donc on va évoquer un petit peu ça, et puis pour commencer et asseoir un petit peu le débat, pour montrer un petit peu à quoi ça correspond, ce qu'on appelle la sécurité informatique, la liberté, la protection de la vie privée, qui paraît-il est quelque chose qui est garanti par la loi, qui est garanti par les prestataires de services, le commerce électronique, qui est garanti par tous ces gens qui se font du business avec les nouvelles technologies, sachant que la majeure partie des gens qui participent là, nous ont dit que c'est pas pour se faire du business qu'on utilise Internet, c'est pour se faire des thunes. Et alors, une petite démonstration, une petite démo de qui tais-toi sur les... sur la protection des données personnelles, sur la sécurité informatique.
Bonjour. Je voulais vous montrer en fait qu'on dépose, mais il n'y a pas au moins un Big Brother, mais il y a plein de petits Big Brother qui récoltent nos infos un peu partout sur tous les sites, hein. Parfois à notre insu, parfois parce qu'on laisse plein d'informations en disant que puisque la marque est prestigieuse, sans doute tout est bien protégé, etc. Je voudrais commencer, je ne sais pas si ça marche parce que le site est en cours de maintenance, mais je voulais commencer par le site de l'EPITA, qui est une école de l'informatique connue, en fait, je ne sais pas si c'est connu. Ils ont un site pour que les jeunes qui sont là-dedans puissent communiquer avec des entreprises et puis ils déposent là-dessus en fait des rapports de stage, des choses comme ça. Je sais pas si les gens d'EPITA dans la salle. Donc en fait, j'imagine que parce que c'est l'EPITA, c'est bien sécurisé. Donc j'étais sur la page d'accueil, je me retrouve à l'intérieur du site, sans doute à un endroit où ils n'aimeraient pas forcément que je sois. On a une liste des entreprises présentes. Alors avant, il y avait une liste des stagiaires et de leurs rapports de stage, avec leurs appréciations sur l'entreprise, sur les gars qui les avaient managés dans l'entreprise, c'était pas toujours très sympathique. Je ne sais pas, pour moi, ça, ce sont des données personnelles, puisqu'il y avait toutes les coordonnées des étudiants, leur nom, leur adresse, leur téléphone à la maison, etc. Pour moi, ce sont des données personnelles, et normalement, elles sont protégées par une loi, qui est la loi 78, qui a quelques articles là-dedans, qui sont assez intéressants, et qui disent qu'une entreprise qui collecte des données personnelles et qui en fait un traitement dans des bases de données doit faire tout ce qui est possible pour protéger l'accès à ces données. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui le font très mal, hein, et il n'y a jamais eu une seule condamnation depuis que Internet est là, entre le web. Il y a eu une condamnation bien avant, à l'époque du Minitel, parce que une femme qui cherchait un appartement avait déposé ses coordonnées sur un serveur Minitel d'immobilier, et son numéro de téléphone était apparu, son annonce était apparue en fait sur un serveur de pub. Et elle avait eu plein de coups de fil chez elle. Et elle portait plainte, hein, et effectivement, elle avait gagné simplement parce que son numéro de téléphone personnel était exposé. Donc c'est évidemment considéré par les tribunaux comme une donnée personnelle. Et là, évidemment, ils sont en maintenance, donc on a du mal à obtenir une réponse.
Le jugement derrière, ce que tu avais dit avant, c'est qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait des rapports de stage
Des rapports de stage. Les étudiants ont déposé leur rapport de stage pour que leur prof puisse les lire. Hein. Le partage des informations, le partage total sur Internet, enfin, tout le monde. Donc, j'avais fait cette démo dans un autre lieu. On pouvait voir des commentaires assez partout sur la semaine. Là, je suis sur un site de e-marketing. Même histoire.
Okay. Tu peux dire qu'est-ce que tu rentres dans l'adresse là?
Alors, en fait, je suis sur un site, ce sont des choses hyper connues, donc c'est bizarre que ce ne soit pas patché. C'est un site Lotus Domino. Ouais. On peut, en rajoutant un petit truc au Google URL, qui est documenté par Domino, hein, c'est pas un truc inconnu.
Donc dans la doc du logiciel?
C'est dans les docs pour les gens qui veulent sécuriser leur serveur, faire attention à ce genre de choses. Ouais. En fait, je vais faire apparaître l'ensemble des données qui se trouvent dans le serveur. Donc à la fois celles qui vont être publiques et celles qui sont privées pour les gens qui le serveur.
Il peut y avoir des vieux documents
qui
ne sont plus en accès libre via le site, mais qui laissent comme ça parce que par
ça ou des listes de clients ou des là, il y a quelques jours, on a fait un petit papier sur une boîte américaine qui s'appelle Choice Story, qui a fait des bases de données très importantes sur les Américains, toutes leurs condamnations, tous leurs défauts de paiement dans des trucs de leasing, des choses comme ça. Le FBI a passé un contrat avec eux pour pouvoir accéder à ces données via le web. Or, sur leur site, le site de leur boîte, on pouvait accéder à toutes sortes de données en fait internes, comme ce qu'ils appellent les leads. En fait, c'est des contacts commerciaux déjà bien engagés, et on avait toutes sortes d'informations qu'ils n'auraient pas voulu afficher. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient fait un audit de sécurité début 2000 et que bizarrement, ça n'avait pas vu apparaître ce genre de choses.
Donc là, les marketing, c'est quoi? C'est une boîte qui collecte des données personnelles, c'est ça?
C'est sans doute une boîte qui fait un peu de business sur les données personnelles.
Le portail des professionnels du marketing. En dernier, c'était un site qui prétendait être le portail du CRM, qui est le Customer Relationship Management, qui est la gestion de la relation client. Traduit en français, ça veut dire comment pomper le maximum de données personnelles et les revendre, tout en disant qu'on vous protège par la loi informatique et liberté. Ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, on avait eu accès à l'ensemble de leurs fichiers clients. Alors que c'était des gens qui justement prospectaient, d'un point de vue business, marketing, d'autres personnes pour leur vendre des solutions soi-disant sécurisées, de collecte de données personnelles. Et là, on avait un fichier client des 2300 et quelques personnes qui étaient clients de ce portail-là. À la base, c'est leur business, quoi. Et toujours pour voir par rapport à la loi, donc la loi informatique et liberté, elle a paru en 78 parce qu'ils voulaient croiser différents fichiers au niveau de l'administration. Ça a fait scandale à l'époque, ça s'appelait le projet Safari. Donc c'était un scandale médiatique, le monde avait soulevé l'affaire, au point que ils ont décidé donc de mettre une loi en place qui n'est pas d'interconnexion de fichiers informatiques, ou en tout cas l'interconnexion des fichiers informatiques et le fait de créer des fichiers informatiques soit encadré par la loi. La CNIL existe donc depuis 78. Elle a été, je ne sais pas combien de plaintes ont été déposées à la CNIL, mais ça se compte par dizaines de milliers, si ce n'est plus. La CNIL, depuis 78, a porté à connaissance du parquet, je ne sais plus si 17 ou 23 affaires.
16.
16. 16 affaires. Parce que la politique de la CNIL, c'est de dire qu'ils essayent d'abord de résoudre le problème en interne, et en essayant de médiatiser la chose, en essayant d'éviter de médiatiser la chose. Et c'est seulement en dernier ressort qu'ils portent plainte auprès du procureur. Et une des dernières plaintes, ça devait être par rapport à la scientologie.
Finalement, c'est un dossier très politique où on pourrait les accuser justement de ne pas, avoir agi. Donc, scientologie, Front National, effectivement, c'est des choses. Pour les cas de détournement de fichiers commerciaux ou, par exemple, le STIC, c'est le policier de l'intérieur. Bien sûr, la clause, c'est vrai, a toujours été très très présente, mais j'ai vu que ça s'en
sur le site de l'EPITA, donc effectivement, ils ont visiblement enlevé les les rapports de stage.
Les rapports de stage, conférences dessus.
Mais il reste de la liste des sociétés qui, visiblement, j'imagine, proposent des stages ou se présentent auprès des grands États. Donc là, on a pris le Télindus. Il y a contact de recrutement, contact de stage. Et on pense que c'est pratique pour ceux qui ne sont pas à l'écoute. Donc voilà, on doit pouvoir faire ça pour la liste de toutes les entreprises qui sont situées ici.
Sachant que tout ce dont on parle là, c'est avec juste un simple navigateur. Ça, c'est pas...
Un navigateur, une grande discussion qui est est-ce que faire ça, c'est thérapeutique, oui, non, pourquoi, je ne sais pas. Et moi, je dis que non. Il y a quand même des gens pour dire que oui. Je fais du web, je fais de l'HTTP, du port 80, le serveur Barcelone doit un utilisateur qui l'a fait lui-même à un moment, qui en fait n'importe qui, soit je passe. Donc pour moi, je ne m'identifie pas auprès d'un machine avec un mot de passe, donc je ne la ferai pas, je la force à rien faire. Voilà, donc si vous voulez des conseils dans les entreprises, les gens cherchent du boulot, on pourra faire un petit atelier après. Voilà. Essayez pendant que vous parlez d'aller chercher d'autres types de serveurs ou de résultats eux-mêmes. J'en montre un rapidement. Voilà, alors là c'est une mailing list d'un site qui est connu, qui est en train de faire sa vie. Vous avez la liste de tous les gens qui sont train de donner. Pas la peine de racheter la base de données, elle est aussi plus rapidement parce qu'ils ne sont pas prévenus.
Juste comme ça. Est-ce qu'ils sont pas prévenus parce que les autres sont prévenus et puis là, tu l'auras signé avec
moi. Non, l'épitage, j'aurais pas signé les noms.
D'accord. Alors pourquoi tu prends plus de noms
et perso. Pardon.
Pourquoi tu prends plus de noms et quelques vidéos
parce qu'à l'épitage, il n'y a pas de données personnelles de l'individu. Alors que là,
c'est leur métier d'assurer la sécurité.
Voilà. Donc, bon, l'épitage, d'accord. Ouais, c'est rigolo, parce que c'est l'épitage. Bon, voilà, il y a d'autres serveurs sur le réseau d'épitage qui sont trouvés. Comme il y en a partout, j'imagine, entre les écoles et chez les meilleurs, avec moi, j'ai fait une présentation. Je suis mieux en informatique. Je ne cherche pas la somme complètement.
Jérôme Torel, qui est représentant français de Privacy International, qui est donc cette ONG britannique qui a lancé en 98 les Big Brother Awards et qui maintenant a essaimé dans presque une dizaine de pays. Et les Big Brother Awards français sont décernés lundi à la Flèche d'Or, enfin, vous êtes probablement au courant. Ça s'inscrit aussi dans la dynamique de la Nosey League. Et donc il va parler un petit peu, là on a fait un petit point sur la CNIL et ce qu'on appelle la protection des données. L'autre versant, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. Et là par contre, c'est beaucoup plus féroce. Là, ils prennent beaucoup moins de gants et c'est une longue histoire de criminalisation des internautes.
Oui, bon, c'est une longue histoire. J'espère que tout le monde va être intervenu avec ce que vous voulez dire, parce qu'on va changer, on va faire un tour. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, au niveau européen, au niveau également des discours transfrontaliers entre les États-Unis et l'Europe, une espèce d'influence, une sphère d'influence américaine qui veut que. Il y a pas mal de mesures qui n'arrivent pas à imposer chez eux, c'est-à-dire le contrôle, par exemple, des correspondances et des agences électroniques. Ils essaient depuis une dizaine d'années d'aller faire des lobbying en Europe pour tenter d'imposer ça dans d'autres pays, pour ensuite, au niveau du Congrès, il y a un rapport de force entre le gouvernement et les parlementaires, que ça puisse avoir un poids et que les congressmen américains puissent tout d'un coup être convaincus que, effectivement, si l'Européen trompe, là, il faut le faire. Donc ça s'est apparu déjà dans les travaux de Duncan Campbell, qui est un juriste écossais qui a révélé toute l'histoire du réseau Echelon, et qui, dès les années 90,
a mis à jour le fait qu'il y a une espèce de forum un peu informé qui s'appelle IFETS, un forum international d'experts en télécom, et qui se réunit de manière très très secrète depuis une dizaine d'années, année 98 à année 90, vraiment 92 en tout cas, les premières traces. Et c'est en fait le début d'une espèce de concertation qui donc ensuite, au niveau européen, c'était en 95 par une directive, une recommandation du Parlement européen qui donc acceptait que tous les opérateurs de télécom devaient harmoniser leur système pour que les écoutes téléphoniques, les écoutes d'interception sur tout système informatique de communication soient possibles. Que ce soit GSM, à l'époque on parlait de GSM, maintenant il s'agit du LTS. Tout ce qui est données, voix, et satellite, câble, etc. Donc, toute cette sphère d'influence américaine est arrivée à un premier but avec cette recommandation 95. C'est suivi ensuite par des réunions de groupe de travail qui sont appelées Infopol. Infopol, c'est-à-dire Enforcement Police Group, qui est donc un groupe à l'intérieur des 15. Des groupes qui représentent le porte-police de chaque pays membre de l'Union européenne. Et ce groupe Infopol est chargé en fait de faire de lobbying très très féroce au sein de chaque réunion, au sein de chaque conseil européen, c'est-à-dire surtout les télécoms, l'industrie, les affaires étrangères, etc. Pour que finalement il y ait réellement une interconnexion des moyens d'interception. On partant du principe effectivement que tout progrès technologique doit être maîtrisé et maîtrisable par les forces de police pour ne pas que ça engendre, comme il faut le dire, le fait que le monde est sourd et aveugle, puisque évidemment ils mettent en avant le fait que la formation est énorme et que pour pouvoir finalement intervenir sur des cas graves, on a vu avec les attentats récemment que tout est prétexte à l'urgence sécuritaire. Donc le groupe Infopol est en fait une espèce de cheval de Troie du lobby américain pour que tous les États européens s'entendent pour qu'effectivement une interception soit possible en Italie sur des brigades d'ETA ou en Irlande avec l'IRA et les forces britanniques. Donc c'était un peu le démarrage de cette influence-là et c'est arrivé un petit peu à... C'est arrivé un petit peu au grand jour finalement avec les attentats. À la suite de quoi finalement le groupe Infopol a été mis à jour de manière un peu plus ouverte. Et on les a vus à l'heure finalement pour influencer les parlementaires européens. En tant que travaux de directives qui sont encore en cours. Et c'est vrai que le mariage, je dirais, l'histoire de l'influence américaine et européenne s'est vraiment renforcée depuis le 11 septembre, à l'heure différentes initiatives de décision cadre, on a parlé aussi du mandat d'arrêt européen qui est en train de discuter, c'était une démarche qui avait déjà été évoquée avant les attentats. Donc, je suis peut-être hyper confus à tout ce que je dis. Je suis des réactions, si vous voulez un petit peu qu'on reprécise les choses. Un peu ce que je peux faire comme exposé de base pour ouvrir le débat.
Je vous remettrai une petite chose.
Ouais.
Pour ceux qui disent que certes l'entrée sur ce que l'on fait sur ce qui
n'est pas point com, c'est du piratage. Pour ceux qui disent que ce que l'on fait sur ce qui n'est pas point com, c'est du piratage, il y a un nouveau venu sur le business de qui fait quoi, c'est Google. Depuis peu, permet de rechercher les types de fichiers dans les recherches avancées. Il propose un certain nombre de types de fichiers, Excel, Word, etc. Bizarrement, ils n'ont pas vu qu'on pouvait aussi rechercher toute la suite en fait, de Microsoft et aussi les points MDB qui sont les bases de données Access. Or, il y a énormément de gens qui sont vraiment très forts en informatique et qui mettent des bases de données Access sur leur propre site, dans les répertoires de leur site, et l'accès à ces fichiers n'est pas protégé. Donc là, j'ai mis un mot-clé, des téléphones, hein,
fichier de la base de données RSS, et ça me renvoie un petit résultat. Je vais avoir une série de numéros de téléphone, peut-être marqué order après, donc, j'imagine. Donc ça c'est Google. Plus ça va aller, plus Google va archiver ce genre de choses, plus nos données personnelles seront très bien protégées. Je reprends un exemple qu'on utilise souvent avec mon camarade, c'est Pixiebox qui fait du couponing sur Internet. Couponing, il faut bien sûr donner des données personnelles et ils ont une charte d'éthique qui est très jolie. Il y a bien marqué à côté que la CNIL protège une information transmise par Pixiebox. Il respecte la confidentialité, il laisse la maîtrise des informations, et bien sûr, il propose des services toujours gratuits. Alors, est-ce que vous en faites là ? Ce site-là, on peut voir tout le contenu du site. Hein. Et donc, très bien installé. Voilà.
Gagner 3 francs sur la Heineken.
Pour l'instant, on gagne rien.
Voilà, vous avez un certain nombre de.
Si vous voulez créer un concurrent à Pixiebox.
Voilà, il y a un certain nombre d'informations sur les gens qui ont laissé. Faire du coding, hein, c'est donc leur nom, prénom, adresse, etc. Voilà, sur celle-ci, il y a 1200, 300 entrées. Je reviens sur mon truc précédent. C'est bizarre, c'est que ce truc-là, ça se vend un peu cher, c'est-à-dire qu'un contact vient. Bien identifié, on sait à peu près ce qu'il achète, ce qu'il dépense, ça peut s'échanger autour de 10 francs. Quoi. Donc si vous en avez 3 ou 4 millions comme ça accessibles sur le web, bah, vous pouvez noter une boîte de base de données client, à mon avis, il y a de quoi faire, un investissement est un peu minime au départ, hein, un peu plus récurrent et puis pas comme ça. Voilà. Ce truc que je vous ai montré fonctionne sur tout type de serveur. Pour bien montrer sur ton blog, là c'est un truc de la RTL. Voilà, on se retrouve à l'intérieur du site avec la correspondance. Bon, là il n'y a pas grand chose de premièrement. On trouve de temps en temps des réponses à des appels d'offres de l'armée qui sont en question.
Et il y a des gens qui n'ont rien fait, qui eux se retrouvent au trou.
Et quand vous avez une procédure parce qu'on vous accuse d'un crime, d'un vol, d'avoir fraudé aux impôts, au fisc, aux sécurités sociales, c'est perte de boulot, ça peut être divorce, vous voyez plus vos mômes, vous allez au trou pendant quelques années, le temps d'arriver à prouver que vous êtes innocent, parce que c'est aussi ça, il faut arriver à prouver qu'on est innocent, et c'est pas évident, donc ça crée vraiment des désastres là-bas. Et de plus en plus, on parle de l'usurpation d'identité, l'identity theft, comme on dit en anglais, et parce que c'est une des premières raisons de la cybercriminalité. Maintenant, ce qu'on dit en règle générale dans les médias, ce que vont dire les politiques, ils ne vont pas parler de la cybercriminalité sous cet angle-là, ils ne vont pas parler de la cybercriminalité à propos de la non-protection des données personnelles, ils ne vont pas parler de la cybercriminalité au niveau des blanchiments d'argent, parce que c'est la première forme, enfin, même avant ça, la première forme de cybercriminalité, c'est les réseaux interconnectés bancaires qui permettent des échanges complètement anonymes, il n'y a pas un flicage si important que ça, et qui permettent de blanchir de l'argent. Non, on va parler de la cybercriminalité sous l'angle du petit pirate de 15 ans qui va changer la page d'accueil du site de la NASA ou du site de Hotmail. On va parler du pirate informatique qui va essayer effectivement de s'infiltrer dans une base de données, et même s'il ne va rien voler, même si c'est juste pour montrer effectivement les failles de sécurité, et ben on va le pourchasser, c'est le FBI, c'est ceci, c'est cela, on peut le mettre au trou, faire un procès. Et donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. C'est d'un côté le commerce électronique, on ne le fait pas trop chier, quand bien même il y a des lois. De l'autre côté, et la protection des données personnelles. De l'autre côté, quelqu'un qui veut montrer les failles de sécurité, ou quelqu'un qui effectivement joue au con à partir des failles qui préexistent, lui, il va prendre un max. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Jérôme tout à l'heure sur l'harmonisation des écoutes électroniques et de la surveillance technologique, là en France, la LSQ qui est passée récemment prévoit une conservation des logs de 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, les fournisseurs d'accès sont censés enregistrer qui écrit à qui, quand. Qui se connecte à quelle URL quand.
Exactement, c'est pas encore exactement ta petite donnée, mais c'est tellement flou que.
Ouais. Mais normalement, ils ne sont pas censés enregistrer le contenu des emails, par exemple. Mais c'est vrai qu'on attend encore le texte, le décret d'application, qui permettra de savoir exactement qu'est-ce qui sera enregistré. Pour l'instant, c'est assez flou. Mais au niveau du groupe de travail en Fopol, sous la pression des Anglais, comme chacun sait, son copain comme cochon avec les États-Unis, eux, c'est 7 ans qu'ils veulent. Ils veulent conserver les données de connexion pendant 7 ans. Et eux, ils veulent conserver le maximum de données de connexion, y compris ce qui est échangé. C'est-à-dire que, pour résumer, on n'applique pas les lois qui existent, on ne fait pas payer, ou on ne pourchasse pas les principaux responsables de ce qu'on appelle la cybercriminalité. On préfère s'attaquer aux petits cyberdélinquants de notre base ou aux gens qui ne font pas forcément grand mal, mais qui effectivement font un peu parler d'eux. Et de l'autre côté, on développe des moyens technologiques, légaux et financiers, pour surveiller les gens, que ce soit avec les trucs de commerce électronique où effectivement de plus en plus on demande des données personnelles, nom, prénom, identité, etc. Il y a même une loi qui est passée l'an passé qui dit que pour s'exprimer en public sur internet il faut décliner son nom, prénom et adresse, c'est l'amendement Bloch. Et donc il y a vraiment deux poids deux mesures, d'un côté l'État et le business qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui ne respecte pas la loi, et de l'autre côté les citoyens ou les internautes qui eux sont les principales victimes, mais aussi les principaux coupables désignés, qu'il faut surveiller en permanence. Jusqu'à preuve du contraire, au moment des attentats, on a effectivement réussi à bloquer des comptes bancaires en Suisse et dans les paradis fiscaux, je ne sais pas exactement, un certain nombre de comptes bancaires qui prétendument servaient aux terroristes, mais on n'a pas voté de loi par rapport aux paradis fiscaux, par rapport à l'échange d'argent d'un point de vue électronique, une surveillance pour essayer de voir en quelle mesure il y a du blanchiment de l'argent par rapport à la drogue, par rapport à la mafia. Par contre, on a prévu, au nom de la lutte antiterroriste, de mettre tous les citoyens sous surveillance.
C'est plus facile de dire aux citoyens que peut-être la correspondance est violable, alors que le secret bancaire apparemment est inviolable et a beaucoup de temps. Erwan, qui représente le rapport, peut-être qu'il va faire des mots.
Je voulais ajouter quelque chose sur les excuses. Enfin, la loi sur la sécurité quotidienne qui a été votée en novembre, là. Les logs qui sont gardés 1 an pourront servir pour collecter les données personnelles commercialisables par les fournisseurs d'accès. C'est l'amendement numéro 8, je crois, ou 9, qui est passé. Alors, c'est intéressant, les fournisseurs, on nous surveille, mais on va pouvoir revendre les données personnelles.
Comme ça coûte de l'argent de nous surveiller, pour arriver à ce que ça coûte moins d'argent au FAI ou que l'État paye moins la surveillance qui est imposée au FAI, on les autorise à commercialiser les données qui sont obligés par la loi de stocker.
C'est ce que Yann a annoncé tout à l'heure. Il disait que c'était que l'autorité judiciaire qui a accès au log.
Quand tu regardes le texte de la loi, la commercialisation des. Enfin, j'ai pas le texte sous mes yeux, mais je peux les chercher. La commercialisation des données de connexion. La commercialisation, pas des données de connexion. Enfin, sais plus, c'est les données.
C'est,
données.
C'est extrêmement flou.
Ouais. Non, mais
il y a plein, il y a des décrets d'application qui sont plus déterminants. Il y a un alinéa, non, il y a un alinéa qui clairement.
Facturation pour les opérateurs. Ah, mais facturation.
Pour eux, facturation.
Oui.
Il faut qu'ils gardent le nombre de fois que tu appelles.
Commercialisation des données ainsi recueillies, c'est marqué comme ça dans l'article 6 de la SQ.
C'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a des boîtes qui seraient très intéressées par ce genre de données, qui en fait tentent de mesurer l'audience sur Internet. Pour ceux qui veulent rigoler avec ça, je renvoie un site qu'on a fait qui s'appelle certificateur.com. Donc ces boîtes-là sont vraiment très intéressées par le nombre de connexions d'un utilisateur moyen, etc. On sait qu'il a dans les 40 ans un client d'ISP démarqué. Ça peut sûrement les intéresser énormément.
Il y a un truc qui me fait
peur. C'est d'autoriser la
signature des données retenues. C'est une espèce de contrepartie à beaucoup du stockage des données.
Pour leurs propres besoins, en compte que c'est le nom de leur client. Donc, si c'est le fait que c'est leur client, ils ont le droit de les relancer, leur poser des offres commerciales, etc.
Mais
c'est aussi considéré que c'est des données privées, mais qui sont recueillies dans le cadre d'une activité commerciale, et que donc, si ces données-là, bah, je veux dire que tu vas la renouer, que.
C'est la
CNIL, le fichier est déclaré, il n'a rien à dire. Le fichier est déclaré. La CNIL, en ce moment, attend les décrets comme tout le monde.
Ouais,
elle va donner son avis sur les décrets, donc elle dira si tu veux être d'accord, si celle-là non, celle-là non.
La CNIL avait demandé 3 mois de. avait recommandé le fait de conserver les données de connexion pendant 3 mois. Du côté du syndicat des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, eux ils disaient pour l'instant on stocke effectivement 3 mois les données de connexion et jusqu'à présent ça n'a jamais posé de problème aux autorités policières et judiciaires pour arriver à retrouver des personnes qui étaient soumises à une enquête.
Il ne faut pas oublier en plus que les logs c'est à plusieurs endroits, c'est-à-dire que si chez moi et que je pirate un site, il y aura des logs chez mon ISP, il y aura aussi des logs chez le site qui héberge le site que j'ai piraté. Donc il n'y a pas vraiment un besoin énorme d'enregistrer les logs chez l'ISP, parce que de toute façon on les trouvera les adresses IP qu'il faut aussi ailleurs, sur d'autres routeurs.
Moi j'ai une question que je me pose, c'est dans la mesure où je passe un contrat avec mon fournisseur d'accès, c'est un fournisseur de communication, donc a priori il est soumis au secret de la communication. Comment il peut vendre une partie de la communication privée?
La LSQ précise bien dans un alinéa très clair que, évidemment, il ne s'agit pas des données pouvant identifier la donnée, mais en aucune sorte, il s'agit de contenu de conversation.
Mais en fait, oui, d'accord, mais le fait que je me connecte à, je sais pas, à Quora ou à Amazon ou à ce que vous voulez, ça fait partie de la communication.
Oui, mais ça, dans la loi, il n'y a pas marqué les données, c'est le décret que vous voulez dire.
Oui, mais la commercialisation des logs, ça reviendra à ça. Ça reviendra à dire que moi, individu, je me suis connecté à Quora, je me suis connecté à Amazon, je me suis connecté à machin.
Tu seras un numéro. Ce ne sera pas ton nom et ton prénom qui sera associé à ça, mais l'internaute ou le client numéro de temps. Anonymisé, c'est ce qui s'appelle l'anonymisation des données de connexion, l'anonymisation des données privées.
On fait la même chose pour le recensement, mais les mégabases utilisent les données du recensement qu'elles achètent.
On verra ça également lundi au niveau des Big Brother Awards, où il y a eu plusieurs dossiers qui posaient le problème, notamment au niveau des fichiers médicaux, avec la carte vitale, les données qui concernent les maladies que vous pouvez avoir, combien de fois vous allez voir le médecin, quels sont les médicaments prescrits, etc. Tout ça, c'est informatisé maintenant. Bon, c'est informatisé, mais c'est passé par des boîtes privées qui, effectivement, informatisent les médecins. Donc, il y a différents concurrents sur le marché, et ces concurrents-là, qui sont des boîtes privées, travaillent aussi avec des administrations gouvernementales, enfin des fonctionnaires, mais ces boîtes-là commercialisent les données médicales. Alors, officiellement, c'est anonymisé, pareil, ça correspond à un numéro d'identifiant, ça ne correspond pas à un nom. Sauf que tu t'aperçois qu'après, au vu du nombre de données qui sont collectées quand tu vas chez le médecin avec la carte sésame vitale que tu donnes, après il y a des recoupements qui sont faisables, et par recoupement, tu peux arriver à retrouver telle personne, ou à savoir que telle personne, effectivement, a telle maladie, a tel traitement, etc.
Mais même si on ne retrouve pas la personne, je ne suis pas certain que quand je donne, quand je vais chez le médecin, et qu'il me diagnostique n'importe quoi, une grippe, un cancer, je ne suis pas certain que ces données
que je lui file, j'ai pas envie qu'il que quelqu'un les commercialise sur mon dos sans, entre guillemets, sans rien me reverser. C'est-à-dire que je n'ai pas une matière première qu'on peut prendre comme ça, et puis voilà, effectivement, ils vont faire des statistiques, même si c'est analysé, et ces statistiques, ils vont tirer des rapports, ils vont vendre, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent ça sans rien payer à personne, et en faisant en fait n'importe quoi.
S'autorise à ne pas identifier.
Mais concernant les données médicales, tu n'as aucune possibilité d'embargo.
Oui, sur
les données concernant, à l'heure actuelle, il y a.
D'autant qu'au niveau des données médicales, par exemple.
C'est une procédure qui se permet de.
Au niveau des données médicales, ça passe par le médecin, ça passe par la caisse d'assurance maladie, ça passe par le prestataire de service qui fournit le logiciel utilisé. Ensuite, ça va être distribué auprès des industries pharmaceutiques. Au niveau des visiteurs médicaux, enfin les gens qui viennent faire la promo des médicaments auprès des médecins. Ça va ensuite passer par des instituts épidémiologiques qui vont effectivement essayer de voir quelles sont les maladies à la mode pour savoir qu'est-ce qu'il faut développer comme type de médicaments. Ce qui fait qu'au final, tu as un point d'entrée, qui est ta carte sésame vitale quand tu vas voir le médecin, et ensuite, ça va dans le réseau. Et quand ça va dans le réseau, tu ne peux plus contrôler, tu ne sais pas où ça va, sans même parler de la sécurisation, sachant qu'il y a eu pas mal de problèmes. Je ne sais pas si Emma est là, si on peut en parler, mais comment il y a pas mal de problèmes au niveau de la sécurisation de la transaction. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que au niveau de la sécurisation des transactions, pendant longtemps, c'était selon. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment pas sécurisé. Et il y a là, il y a tout un problème au niveau du fichage des fichiers épidémiologiques qui sont faits sur les malades du sida, où ils veulent mettre en place donc un fichier pour arriver à suivre d'un point de vue épidémiologique l'expansion et le développement de la maladie. Et pour l'instant, au niveau de l'informatisation de ces fichiers-là, le ministère de la Défense a mis son veto. Parce qu'il dit que ce n'est pas si sécurisé. C'est le ministère de la Défense. Mais en attendant, les fichiers utilisés d'un point de vue médical à partir de la carte sésame quand tu vas voir ton médecin, là ça circule depuis longtemps. C'est parti, quoi. Tu ne peux plus enrayer le mouvement. Les données, elles sont déjà parties. Elles sont déjà exploitées commercialement. Et effectivement, ce que disait c'était toi tout à l'heure, c'est que toi à la base, tu es malade, tu vas payer peut-être bientôt 20 euros la consultation en 10 minutes, mais au final, il y a un business qui est fait à partir de ta maladie, où toi, tu touches rien, toi, tu payes pour ça. Et tu payes aussi l'informatisation du cabinet médical, et tu payes aussi l'informatisation de la carte sésame vitale. En tant que citoyen et en tant que malade, tu vas payer à chaque fois, mais au final, c'est énormément d'argent qui va se faire sur ta maladie et sur tes données personnelles. Donc toi, tu touches rien. Comment ? Oui. Après, on va revenir sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure sur comment fonctionne l'industrie pharmaceutique par rapport à la recherche.
Céder en contribution de liberté pour une facilitation ou une acceptation du progrès, effectivement, en informatique, c'est pratique, on n'a pas à payer l'informatique. Toutes les compensées, les compensations financières qui sont sans qu'on ait interdit, sans qu'on ait interdit ça, c'est pratique, mais jusqu'à quel point il faudra accepter que ce soit pratique. Oui, c'est une espèce de
non. Il y a même des sociétés privées qui offrent l'informatisation aux médecins en échange du fait de pouvoir naviguer dans leurs données. C'est pas, je suis pas certain que c'est le meilleur moyen pour financer la recherche. Il y a aussi, si on se met tous à vivre en société et qu'on est un gouvernement avec des gens avec des moyens de fournir pour qu'ils donnent une certaine prestation, on peut espérer justement que le gouvernement donne des moyens pour la recherche médicale et voilà.
Mais aussi que la recherche, elle n'est pas financée par
les États. Oui, d'accord, mais moi je ne suis pas prêt à donner un blanc-seing aux entreprises privées pour qu'elles fassent avancer les choses. Je suis pas prêt à donner aux entreprises privées un blanc-seing pour qu'elles fassent n'importe quoi histoire de faire avancer les choses. Parce que rarement une entreprise privée va faire quelque chose pour le pour le bénéfice des clients, des profonds bénéfices à elle, c'est jamais des intéressés.
Je ne peux pas parler sérieusement de recherche dans le cadre de ce que font les boîtes comme CGV ou IMS, et qu'ils ont leur propre filiale, qui font des études épidémiologiques et des statistiques. Alors, ils donnent une somme dérisoire, ils informatisent le médecin, au début au moins, ils fournissaient le logiciel, ils écoutaient le mec, mais j'ai en place le modem, le système de pompage de nuit de récupération des données. Petite formation, et puis on lui donnait, je sais pas, 1 500 balles, un truc absolument dérisoire, donc c'est pas une histoire d'argent. Et derrière, les études, parfois on les lui revend au médecin. Et après, on se fait de l'argent en revendant les données au laboratoire pour qu'ils sachent si les nouveaux médicaments fonctionnent bien, si les médecins les prescrivent bien, après on va bien les chercher chez les pharmaciens, etc. Ils ont aussi comme clients les assureurs, et là on aimerait bien savoir quel est le business qui se fait entre ces boîtes-là et les assureurs, parce que c'est encore plus grave. Donc je ne vois pas où il y a de la recherche. Là,
vous donnez un autre exemple, toujours sur CGDIM.
Oui, mais c'est de la recherche.
Pour donner un exemple sur CGDIM qui est donc un des leaders CGDIM se présente comme le leader du marketing pharmaceutique et le leader du marketing business-to-business. Sur la page d'accueil de leur site, ils donnent leur chiffre d'affaires qui est plus d'un milliard de dollars ou d'euros, je ne sais plus exactement. Ils disent qu'ils sont introduits en bourse au second marché depuis longtemps. Ils font tout un truc comme ça, on dirait une plaquette de présentation pour la COB. Et moi, ce que je sais, c'est que je suis allé voir ce site-là. Pourquoi ? Parce que j'ai appris que c'était effectivement le leader de l'informatisation médicale des données personnelles. Il n'y a strictement rien pour informer les gens sur comment sont traitées leurs données personnelles, leurs données médicales. Il n'y a aucune information, il n'y a rien non plus pour les médecins. Pour expliquer aux médecins, ne vous inquiétez pas, passez un contrat avec nous, de toute façon on sécurise, on protège nos patients, justement parce qu'il y a des médecins qui se posent la question de l'informatisation et qui refusent l'informatisation parce qu'ils ont peur du fichage des pathologies. Mais sur le site de CGDIM, c'est flagrant, c'est leader du marketing business quoi. C'est clair, il n'y a rien sur la protection des données, ni sur le... Mais sur le fait qu'à la base, ils sont de l'argent parce que t'es malade. Ils n'expliquent rien. C'est vraiment du business, dur et dur. Et ça, c'est pas rassurant. Mais officiellement, la CNIL veille, etc. Enfin, tout se passe bien. Et bon. Ouais. On peut peut-être passer justement, ouais, à...
Je voudrais juste dire un truc par rapport au financement de la recherche, qui se fait extrêmement souvent actuellement en France. Les chercheurs, ils bossent pour le CNRS, ils bossent dans des labos de fac, ils bossent avec des labos et démontés avec l'argent de nos impôts, c'est dans le cadre du secteur public. Le chercheur trouve une molécule X ou Y, il trouve un brevet, c'est-à-dire voilà, j'ai trouvé un truc, ça m'intéresse, je bosse pour vous. Ce chercheur qui a utilisé des fonds publics va partir pour l'entreprise, va partir avec l'entreprise privée avec le brevet sous le bras, et ensuite l'entreprise va revendre si l'État l'utilise, dire ben voilà, le brevet nous appartient, si vous voulez l'utiliser. Il faut payer. Donc, pour le financement de la recherche, souvent, c'est avec les deniers publics que des recherches sont faites, et après, on doit encore repayer pour pouvoir utiliser les résultats de ces recherches. Si les gens pouvaient partir avec le brevet sous le bras, pour utiliser des fonds publics, on pourrait peut-être financer en effet un petit peu plus de recherche et donner un petit peu moins aux clients.
Le truc, c'est souvent aussi que les données personnelles, c'est vraiment un business. En plus, la surveillance, c'est vraiment un business. Donc, on a beaucoup parlé d'échelon depuis quelques temps. Mais ce qu'il faut oublier, c'est que l'échelon, c'est aussi d'abord et avant tout le complexe militaro-industriel, comme on disait dans les années 70, ça représente des milliards de dollars. Et il y a de plus en plus, et notamment là, avec beaucoup des attentats, pour tous ces industriels-là, pour tous les gens qui commercialisent des instruments de flicage. Et ça, on le voit effectivement avec le marketing des données personnelles. Et ça se passe aussi, selon qu'on parlait tout à l'heure, sur le placement de tous les internautes. Il y a des sociétés qui vont devoir développer des logiciels pour ça. Ces sociétés-là, elles font payer très cher leurs services. Donc quand on dit qu'on est de plus en plus, on est dans une société de surveillance, c'est parce qu'il y a un business de la surveillance qui est en train de se mettre en place sur le dos des citoyens,
sur le dos de leur vie privée, et par contre, qui profitent bien évidemment à toutes les formes de flicage, que ce soit le flicage commercial ou le flicage policier. Enfin, quand je dis flicage policier, c'est enfin, étatique, policier, enfin, le flicage de ce que vivent les gens, de ce que font les gens, de ce que disent les gens. Et c'est réellement, ouais, c'est une industrie. C'est une industrie qui fait beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires. Un exemple tout con, on a pas mal parlé cette année de ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie, c'est arriver à reconnaître quelqu'un à partir de l'empreinte de son œil. Enfin, à quoi ressemble son œil, ou à partir de la forme de son visage. C'est les fameuses empreintes digitales. C'est ce genre de choses-là. Bon, il y a des sociétés, il y a une société qui avait fait une expérience en direct live l'an passé, au moment de la finale du Super Bowl américain. Ils avaient mis, sans en informer les gens bien entendu, ils avaient mis des caméras de vidéosurveillance un peu partout dans le stade, enfin à l'entrée du stade, couplées avec un système de reconnaissance biométrique. Ils avaient fait un deal avec le FBI, l'idée c'était de voir sur les 78 000 personnes qui allaient rentrer dans ce stade-là, combien ils allaient pouvoir reconnaître, retrouver de criminels qui étaient dans le fichier du FBI et dans le fichier de la police locale. Bon, on l'a appris une semaine ou quelques jours après, parce qu'évidemment les gens qui rentraient dans le stade n'étaient pas au courant. Et ils auraient repéré 23 personnes sur 78 000. 23 personnes, donc à la forme du visage, ils ont arrêté personne, parce qu'il n'y en a aucun qui était recherché. Le seul mec qu'ils ont repéré, et qu'ils n'ont même pas réussi à attraper, c'était un mec qui était super connu, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un match de foot dans ce stade-là, il revendait des billets à la sauvette. Donc ils l'ont reconnu par la caméra de vidéosurveillance biométrique, mais ils n'ont pas réussi à l'attraper. Il a réussi à passer entre les mailles du filet. Cette société-là qui avait passé un deal gratuit, enfin ils avaient dit au FBI, on vous fait ça gratuit pour que vous voyez si c'est efficace ou pas. Donc, comme ça a été pas du tout efficace, la mairie de Tampa a quand même acheté le logiciel. Donc ils ont installé le logiciel couplé aux caméras de vidéosurveillance dans un quartier assez branché, assez chaud de la ville. Au bout d'un an, ça marchait pas, ils ont arrêté. En attendant, ils ont filé des thunes à gogo parce que ça coûte relativement cher ce système-là. Cette société-là se fait essentiellement la majeure partie de son chiffre d'affaires avec les casinos et essaye d'entrer sur le marché des aéroports depuis un ou deux ans. Ils essayent de mettre des caméras de vidéosurveillance avec reconnaissance biométrique dans les aéroports pour justement repérer les terroristes, notamment, ou ceux qui pourraient détourner les avions. Le lendemain des attentats, l'action a été multipliée, je crois, l'action en bourse a été multipliée, je crois que c'était par 3. Un truc comme ça. Oui. Alors que, il y a un autre rapport qui est sorti cette année, qui est un rapport qui a été fait par le ministère de la Défense américain, et qui montre ce que disent les associations de défense des droits de l'homme depuis très longtemps, c'est-à-dire que la reconnaissance du visage biométrique, c'est pas efficace. De même, ce que disent les experts en sécurité informatique, c'est que c'est pas efficace. Si on voulait que ce soit vraiment efficace, en fait, on arrêterait tellement de personnes pour faire des contrôles d'identité à l'entrée de l'aéroport, que ça foutrait à mal tout le business des vols. Parce qu'il y aurait tellement de clients qui ne pourraient pas prendre l'avion que là, ce seraient les compagnies d'aviation qui gueuleraient grave parce que ça ne marche pas. Mais en attendant, le business fructifie. Il y a de plus en plus de sociétés qui mettent en place des solutions de contrôle biométrique pour rentrer dans une société. Il y a même eu ça, on en avait parlé dans les Big Brother Awards l'an passé. Ils voulaient faire une carte de paiement pour des élèves qui allaient à la cantine. Par biométrie. C'est-à-dire qu'il fallait montrer ton empreinte digitale pour prouver que c'était toi, rentrer à la cantine, et à partir du nombre d'empreintes digitales de la personne donnée, on faisait la facture. Donc, c'est vraiment un business, et ça marche du feu de Dieu, parce que ça surfe sur la vague sécuritaire.
Il y a quand même une dizaine d'aéroports américains qui utilisent ce système maintenant depuis les attentats. Il y a
une dizaine. Ouais, ça marche.
Et puis l'État du Mississippi vient de signer 7 millions d'autres de contrats.
C'est aussi eux qui gèrent les permis de conduire et les cartes de sécurité sociale dans de plus en plus d'États aux États-Unis. C'est aussi eux qui gèrent les fichiers policiers des gens qui ont été en taule, qui ont été incarcérés, pour arriver à faire de telle sorte que on puisse effectivement interconnecter les fichiers et retrouver les délinquants ou les criminels plus facilement.
Mais là, tu parlais des empreintes qu'on met le doigt, et puis, etc. Mais je fais partie de ceux que vous êtes venus, là, sur la vidéosurveillance. Donc, moi, il me semble qu'on pointe l'atteinte aux libertés qu'il peut y avoir derrière les fichiers ou la vidéosurveillance. Mais ce truc de mettre le doigt ou la biométrie, ce qui paraît grave aussi, c'est la modification des comportements que ça peut inclure chez chacun de nous. c'est pas qu'un débat sur les libertés, c'est aussi un débat sur le mode de vie. En ce moment, je sais pas, vous en avez peut-être déjà parlé, là, j'arrive en retard, on essaye aussi d'introduire ça dans le lycée. Donc d'apprendre aux jeunes, dès leur plus tendre enfance, la vidéosurveillance, on l'a vu avec Love Story, tout ça, ça modifie nos comportements, et nous, on est encore de générations qui découvrons la vidéosurveillance. Mais quel comportement vont avoir les jeunes de maintenant qui ont cette fascination tout de suite par rapport aux caméras et quel, c'est aussi grave, le débat culturel est aussi grave que le débat sur les libertés. À mon avis, c'est... Il y a de quoi être inquiet avec le système là, sur le métro.
On en parlera aussi dans le lieu. Mais c'est aussi, on fait, enfin, je ferai lien aussi avec la, les, c'est un changement culturel ou un changement social où on doit intégrer la, la surveillance et c'est pour ça qu'on parle aussi de contrôle social. Et autant là, on a parlé de protection des données personnelles et de la vie privée sur Internet et des notions de sécurité informatique. Parce que c'était un des volets qu'il y avait dans la LSQ, mais un autre des volets qui était dans la LSQ et qui va de pair avec ça, c'est celui du contrôle social et de la stigmatisation de certaines catégories de population. Parce que ça va vraiment de pair. C'est, je passe la parole à Jean de la CNT, qui va faire un point là-dessus.
Donc en fait, quand vous avez tous vu voir les images du 11 septembre, et tous les journaux l'ont dit, voilà... Il y avait avant le 11 septembre, il y a après le 11 septembre, on est entouré de terroristes, il faut mettre en place un certain nombre de mesures. En fait, toutes ces mesures ont été prises bien avant, ça a été préparé dans les journaux. Le 11 septembre 2001, déjà dès les contre-mouvements, les contre-sommets européens à Göteborg en juin 2001, je ne parle pas suédois, et les gens qui étaient là-bas, sur tous les journaux, le mot qui en est toujours en titre, c'était le mot terroriste pour les gens qui s'opposaient au sommet européen, on voit toujours partout écrit, il n'y a pas besoin de parler suédois, c'est le même mot, pour ça c'est bien, c'est le même mot dans toutes les langues, ça s'écrit à peu près pareil, ça se prononce à peu près pareil, il y a écrit terroriste. Donc on a commencé déjà, bien avant le 11 septembre, on avait commencé un petit peu aussi à Seattle, ça s'est encore plus développé à Gênes, l'idée que, ben voilà, on était entouré de terroristes. Ça ne concerne pas uniquement les mouvements anti-globalisation ou anti-mondialisation, pour reprendre les termes des médias, ça va concerner de plus en plus toutes les formes de contestation sociale. Il y a eu un article dans, par exemple, la Tribune sur la violence sociale qui parlait des mouvements de grève et autres qui dataient du 13 novembre où ils employaient le mot de terrorisme social. Et d'ailleurs, rapidement, Bush aussi dans ses discours a commencé justement à faire allusion à des mouvements de contestation qui pouvaient s'opposer à l'ordre établi, qui avait bien donc le bien et le mal, le bien étant les gouvernants et les institutions, et le mal des gens s'y opposant. Dans cet ordre-là, justement, en ce qui est de légitimité, les États qui sont légitimes, le 29 novembre, il y a un texte qui a été présenté dans le cadre du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme. Le texte, ils n'ont pas sorti de après le 11 septembre, il était dans les cartons bien avant. Alors même si ça a été amendé et que la définition du terrorisme a un peu changé, la première mouture donc, qui a été rédigée, c'est donc le terrorisme, c'est tout ce qui est vient à détruire les structures politiques, économiques ou sociales d'un pays. Donc là, on est loin de Ben Laden et toutes ses amis, c'est toute forme d'opposition, qu'elle soit économique ou sociale ou politique, devient du terrorisme. Donc ça concerne par exemple, pour reprendre le texte de départ, ça s'est resté par contre, capture illicite d'un moyen de transport, d'installation étatique, de réseau d'information, de biens publics et privés compromettant la sécurité publique. Ça veut dire qu'une action, actuellement, il y a des gens qui font des actions sur le cadre des transports gratuits. Il y a la possibilité pour ces gens donc de faire passer les gens gratuitement. Jusqu'à présent, les transports sont encore dans le domaine public. Par conséquent, il y a bien un empêchement de fonctionner. Si on suit la loi antiterroriste qui va être mise en place jusqu'au bout de sa logique, ça veut dire que ce type d'action rentre dans le cadre de la loi antiterroriste. Pareil, il y a l'idée de destruction, de dégradation, de détournement de systèmes informatisés dans l'intention de déstabiliser la communauté. Là, c'est pareil, il y avait eu quelque chose qui avait été fait contre des serveurs internet de la Lufthansa qui avaient été bloqués. Alors déjà, communauté, visiblement, ça peut aussi se traduire par entreprise. Ça doit être le même mot dans le langage actuel, c'est pareil. Terroriste, tout se mélange. Bah, c'est pareil, ça va être problématique. De nouveau, ils vont mettre en place des listes de groupes considérés comme terroristes. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un d'ACT UP qui était là, mais ACT UP New York est sur la liste des groupes terroristes qui a été mise en place par le Patagone. Reclaim the Street, qui donc est mise aussi sur la liste du FBI comme organisation terroriste, ces listes étant bien entendu
secrète. Pareil, toujours pour ça, pour pouvoir être de plus en plus performant, il va y avoir un élargissement des compétences d'Europol, donc la police européenne, et d'Eurojust, qui est donc l'équivalent, pour la justice. Il voulait créer un fichier des fauteurs de troubles. Ça a posé problème, c'est pas grave, ils vont échanger leurs fichiers et se débrouilleront eux-mêmes pour ensuite faire le recoupement. Pareil, ils vont utiliser ce qu'on appelle le SIS, système d'information Schengen. Ça a commencé à être mis en place dès Göteborg, donc avant le 11 septembre encore. Un certain nombre de personnes qui étaient présentes ont été filmées avec leur passeport, donc pour pouvoir faire un contrôle plus efficace au niveau des frontières. On a le passeport qui est filmé. Il y a plus de 400 personnes sur l'administration de Göteborg qui ont été fichées. Pareil, au départ, l'administration a été déposée, elle se déroulait normalement, elle était autorisée. Elle a fini par dégénérer. Les personnes qui ont déposé l'administration actuellement sont poursuivies en Suède pour terrorisme. Il y en a déjà qui ont pris un certain nombre d'années de prison, des gens de la SAC suédoise entre autres, parce que l'action dégénérant, c'est rentrer dans le cadre de la loi terroriste et ils sont poursuivis pour terrorisme actuellement. Pareil, il va y avoir des fichiers de travail, enfin travail, donc pour travailler sur les gens de façon temporaire, avec le numéro de sécurité sociale, le numéro de carte nationale d'identité, le numéro de passeport, le fichage des opinions syndicales. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi sur normalement on ne peut pas ficher les gens par rapport aux opinions syndicales politiques, c'est un fichier temporaire. Il est utilisé pendant un petit moment, et puis quand on aura plus besoin, il sera effacé, donc il ne vient pas permanent. Pareil, de nouvelles lois vont être mises en place pour certaines causes qui peuvent être considérées comme de plus en plus graves. Si on attaque un chef de l'État, par exemple avec une tarte à la crème à Jacques Chirac ou Tony Blair ou qui on veut, ça va être beaucoup plus grave que ça ne pouvait être avant. Ça disparaît, ça va rentrer dans le cadre du terrorisme. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que toutes ces lois qu'on vous expliquait, qui concernaient principalement les terroristes, comme la LSQ ou la LSI, ne sont pas dans le code pénal ou dans le code civil, ne rentrent pas dans le cadre des lois terroristes, elles sont applicables à tout le monde et rentrent dans le cadre de la justice normale quotidienne. Donc, sous l'idée de terrorisme, on fait rentrer un contrôle citoyen. Et toutes ces lois de fichage, de préparation, en fait, avant, dans la justice française, les gens devaient démontrer qu'on était coupable. On est en train d'inverser la chose, on est en train de mettre l'idée de dangerosité, quelqu'un qui est potentiellement dangereux, on doit l'arrêter avant que peut-être, éventuellement, il puisse faire quelque chose. Et par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure sur les logs, qu'on garde sur un an, quand quelqu'un fait la remarque, c'est honteux, la réponse qui a été donnée, c'est « Ah oui, mais comme ça, s'il n'a rien fait, il pourra démontrer qu'il n'a rien fait. » Alors qu'a priori, c'est pas nous de démontrer qu'on a fait, c'est plutôt à eux de démontrer qu'on a fait quelque chose. Donc, cette idée de dangerosité, on va peut-être faire quelque chose, il y a tout un système juridique qui est en train de se retourner, où il faudra démontrer qu'on n'a rien fait, que bah, lui, on va le surveiller parce que peut-être il va être dangereux. C'est en train de changer. Pareil, les mandats d'arrêt européens qui sont mis en place, avec l'étiquette terroriste, on peut extrader quasiment n'importe qui. C'est en train d'être remis en question par un certain nombre de magistrats, mais c'est toujours en débat. On est extradé, ils sont vides. Les gens peuvent dire, ah bon, on s'est trompé, c'est pas un terroriste, mais maintenant qu'il est là, on va le poursuivre pour un autre chef d'inculpation. De toute manière, on le cherche aussi pour autre chose. Donc on est extradé sous une autre raison, le terrorisme, et en fait, on peut ensuite passer sous le coup de, bah, je sais pas, lui, il a coup pour les l'ESCU, il a fraudé 10 fois les transports, donc il va partir 6 mois en prison et payer.
C'est aussi une Irlandaise qui va se faire avorter en Grande-Bretagne.
Voilà, tout à fait, pour la même chose.
Mais ça existe déjà dans la SQ en France. Hein.
Tout à fait, oui.
C'est qu'avant, quand un flic perquisitionnait sur son interrogatoire, on ne pouvait pas être poursuivi s'il découvrait un délit.
Ouais.
Maintenant c'est effacé. Voilà. Bon.
Tu as parlé de Borg tout à l'heure. Je voudrais rappeler que, disons qu'un peu avant, il y a une affaire, suite à Prague. De Prague, tu as des personnes qui se sont fait arrêter le lendemain, enfin disons de façon tout à fait à l'écart disons, des différentes manifestations qu'il y avait eues. Quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui était une copine de Grenoble. Quelques mois après, elle a voulu aller à une manifestation contre Davos. Arrivée à la frontière, ah non, madame, vous ne rentrez pas.
Non seulement vous
n'entrez
pas, mais en plus vous signez un papier disant que vous avez participé à des actions violentes 6 mois plus tôt.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a
été arrêtée en dehors de toute manifestation.
truc intéressant, c'est que disons, les Suisses lui ont fait le dossier, disons, lui expliquant qu'elle ne pouvait pas rentrer parce qu'elle était touchée. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que ça montre qu'il y a des fichiers qui ont circulé. Bon, pas grave, c'est des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne actuellement. Mais enfin, bon, mais c'est quand même des pays qui ont des lois, qui ont des lois informatiques et liberté, qui n'ont pas empêché ce genre de fichiers de circuler. Tout simplement parce que, bon, disons, chez eux, soi-disant, les fichiers. Tout ce qui concerne la loi, disons, les fichiers de police et tout ça, n'entre pas dans le cadre de la loi informatique et liberté. Bon, en France, ce genre de fichiers rentre dans la loi informatique et liberté. Sauf que le nouveau projet a mélangé ça de telle façon pour que, en fait, disons, attention.
La nouvelle loi CNIL, en fait, une directive européenne sur la protection des données personnelles qui date de 1995. Qui aurait dû être appliqué par tous les pays européens en 98. En France, c'est toujours pas le cas, on est en 2002. Donc ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, que la France est donc, entre guillemets, dans l'inégalité par rapport à la protection des données personnelles. Et le projet de loi qui est en travail depuis très longtemps, donc la preuve, qui va être déposé là ces jours-ci, et donc normalement ils doivent discuter bientôt, retire tous les fichiers, entre guillemets, de sûreté, de souveraineté, du contrôle de la CNIL. C'est-à-dire, grosso modo, les fichiers qui ont valeur policière.
Mais ça, il me semble que c'est l'Europe qui exige ça. L'Europe qui veut, justement, pour le Schengen, pour les fichiers.
Actuellement, ce qu'il faut savoir, si on regarde bien les textes, si on s'aperçoit qu'actuellement, il y a une loi informatique et liberté qui a fait jurisprudence, qui est retenue comme modèle, disons, dans le monde entier. Actuellement, il y a un nouveau projet qui va circuler, disons, qui détruit complètement l'esprit de cette loi.
C'est un projet de loi LIL, projet de loi sur la liberté, qui donc remet à jour celle de 78. Et les premiers débats, c'est le 30 janvier, c'est ça?
30 janvier.
Voilà.
Sur la répression et les vilains terroristes, c'est moins d'actualité maintenant, mais dans la SQ, on explique que quelqu'un qui va changer la page d'accueil d'un site et qui va y laisser un message vengeur va risquer 3 ans de prison. 3 ans de prison, selon les petites recherches que j'ai menées, c'est la moyenne des condamnations en France pour quelqu'un qui conduit bourré et qui tue un gamin. Et c'est juste pour mettre en perspective, parce qu'en fait, quand on donne deux trucs, c'est bien pour voir un peu les combats. Donc voilà, effectivement, des actes qui sont qui ont des répercussions faibles deviennent visiblement gênants pour certains et sont criminalisés en France. Je pense pas que ce soit très utile de mettre des jeunes de 16-17 ans en prison pour 3 ans simplement parce qu'ils ont pris une période de jeunesse.
Mais est-ce que ça a été fait déjà, ça, justement? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont été en prison directement?
Oui, je pense que 3 ans. Je voudrais donner un petit exemple de la province profonde, de la région Limousin en France. Hier au soir, sur FR3 Limousin, on a appris que dans la région de Guéret, quelqu'un avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir autorisé une rave party sur son terrain privé, qui est un camping. Et bon, le mec
n'en
revient pas. Et il avait envoyé un dessin humoristique au maire de la commune quelques jours avant que se tienne la rêve, où on voyait un avion qui fonçait dans la mairie du patelin.
C'est un peu provoquant.
Il a été condamné à 6 mois ferme.
Bon,
je
ne
sais pas si la presse nationale
en a parlé. Et en même temps, pour revenir à cette stigmatisation comme ça de certaines catégories de population, ce qui est assez frappant, c'est de voir que le fait de la criminalisation, le fichage en tout cas qui est lancé là, qui a commencé effectivement avant les attentats, parce que la définition du terrorisme et le fait qu'il fallait croiser les fichiers des militants anti-mondialisation, c'était juste après Gênes, où les premiers textes sont sortis officiellement dans les communiqués du Conseil de l'Europe, etc. Donc évidemment, depuis les attentats, bah, c'est pire. Mais en même temps, ce qui est assez troublant, c'est de voir que cette stigmatisation-là, c'est aussi un petit peu ce que vivent les sans-papiers depuis des années. Le système d'information Schengen, le fait d'être refoulé à la frontière, d'être fiqué à la frontière, le simple fait de ne pas avoir de papier, tu vas en taule où tu peux être dans ton pays, dans le pays où tu es censé être, dont tu es censé avoir la nationalité, même si tu as toujours vécu en France. Et ça, ça a commencé par les sans-papiers. Il y a des gens qui se battent aux côtés des sans-papiers depuis des années. Maintenant, ça touche aussi les militants. Ça touche les militants, ça touche aussi les axeurs de la mort de 15 ans qui va changer la page d'accueil de leur université ou de leur fac. Ça touche aussi les pauvres, effectivement, parce qu'avec l'informatisation médicale et avec le fait que quand on est pauvre, qu'on demande des allocations ou quand on demande de l'aide à l'État pour arriver à survivre, on est super fiché. Enfin, on n'arrête pas. C'est une sorte d'extension comme ça du domaine de la surveillance et du domaine de la stigmatisation où, pour reprendre effectivement l'expression de Bush, c'est « faut choisir son camp ». On est WASP ou on n'est pas WASP, enfin, on est dans le camp du bien, ou sinon, si on n'est pas dans le camp du bien, si on n'est pas blanc, si on n'est pas capitaliste, si on n'est pas riche, si on n'a pas un métier, si on fait pas tout comme il faut que Bush y fait, à ce moment-là, on devient potentiellement délinquant. Il y a une inversion de la présomption d'innocence. On devient présumé coupable. Et là, on a parlé pas mal hier et ce matin de la crypto, ou l'utilisation pareille de la crypto, qui est super importante si on veut protéger sa vie privée, maintenant, on est présumé coupable, au vu de ce qui est passé dans la LSQ, vu qu'on est censé amener la preuve qu'on ne peut pas déchiffrer un message si on nous ordonne de déchiffrer un message. Et normalement, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la police ou à la justice d'amener les preuves de la culpabilité, pas au prévenu d'amener les preuves de son innocence. Laurent Bonelli, qui est sociologue.
Oui, alors je vais parler de quelque chose qui va être un petit peu en rupture par rapport à tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, puisqu'on parle beaucoup d'échanges de données, beaucoup d'Internet. Je voudrais attirer votre attention sur d'autres populations qui subissent des formes de contrôle très importantes, qui sont notamment aujourd'hui les jeunesses précarisées des quartiers populaires, soit au cœur des grandes villes, comme dans le 18e arrondissement, soit plus généralement dans ce qu'on appelle les banlieues, et qui, je crois que c'est important dans le débat actuel, dans le débat qu'on a aujourd'hui ici, de le souligner, subissent quand même l'essentiel de la concentration des forces coercitives de ce pays. C'est-à-dire que ce dont on parle depuis tout à l'heure, et je crois que c'est très important, la question effectivement de la cryptographie, la question de la conservation des données personnelles, etc., il y a effectivement des potentialités de contrôle énormes qui sont ouvertes. En même temps, je dirais, ce n'est pas là-dessus que sont concentrées l'ensemble des forces de police à décrypter les fichiers, à suivre, à tracer les gens. Ce n'est que dans certains cas très précis qu'on le fait, exemple l'assassinat du préfet Bonnet, où effectivement vous avez une équipe de police judiciaire de 15 personnes. Pardon ? Erignac, oui, pardon. Bonnet, pas mort. Pas encore mort. Merde ! Ce mec est descendu ce soir, moi, je suis mal. Bon. Bref. Merde. Bon. Bref, l'assassinat du préfet Erignac, oui, là, vous mettez une équipe de police judiciaire qui va effectivement éplucher toutes les bases de données des bornes de téléphones mobiles qui ont été, etc. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est possible, et ça a aidé à arrêter, effectivement, ces assassins-là. Donc ça, la technologie est possible. Maintenant, imaginez...
On
n'a toujours pas arrêté. Non, on a arrêté un certain nombre de gens. On a quand même arrêté un certain nombre de gens. C'est-à-dire, si on devait faire ça sur chaque militant, etc., ça excéderait très largement les forces de contrôle qui existent dans l'ensemble des pays européens. Et même dans les autres. Le problème, par contre, ce dont je vous parle, c'est que depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis le début du moment où on commence à parler du problème des banlieues, c'est-à-dire des années 80, il y a des flambées de violence en région lyonnaise notamment, il y a une prise en charge par les pouvoirs publics des problèmes des banlieues. Et ça va se traduire d'une part par la politique de la ville, hein, le développement social, rénovation des bâtis, etc., et aussi et surtout par la concentration progressive de l'ensemble des unités de police, à la fois sur ces quartiers, et le développement massif des unités de police de voie publique, c'est-à-dire ceux qui vont patrouiller sur la voie publique et qui vont contrôler les populations en bas d'immeubles et les populations de ces quartiers. Ça, c'est des événements qui sont extrêmement lourds et lourds de conséquences. D'une part, on va spécialiser les unités pour intervenir sur ces quartiers. Les plus célèbres d'entre elles, vous les connaissez, ce sont les BAC, les brigades anticriminalité, mais il y en a tout un tas d'autres. On va spécialiser des unités judiciaires. Vous avez les groupements locaux de traitement de la délinquance qui sont spécialisés sur ces questions. On va spécialiser également l'école. Vous avez les zones d'éducation prioritaire. Et puis depuis, en région parisienne, les zones violence, par exemple, où on signale systématiquement tout fait de violence scolaire qui n'est pas de violence scolaire grave au parquet et au commissariat. C'est tout ça qu'on va développer sur ces quartiers. Et si on développe tout ça sur ces quartiers, alors pourquoi? Enfin, l'idée, c'est qu'effectivement la délinquance aurait flambé plus qu'ailleurs, ça, rien ne permet de dire à ce niveau-là. Je ne voudrais pas être très long, donc s'il y a des questions, on pourra le développer. En tout cas, pour autant, ces quartiers, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que ces quartiers, ils ont changé. Ils ont changé comment? Tout simplement parce qu'on était sur des quartiers populaires, que ces quartiers populaires, sous l'effet des réformes libérales des années 70, qui étaient l'aide à la pierre, on a vu les fractions les plus aisées de ces quartiers les quitter pour aller dans les pavillons, et en même temps, la crise industrielle a frappé massivement, au tournant des années 80, le monde ouvrier, dont la plupart des gens qui y habitaient, étaient issus. Ça a eu des effets énormes sur les jeunesses qu'on voit dans ces quartiers. Les jeunesses populaires, pensez aux loubars, etc. La violence des jeunesses populaires, c'est pas nouveau, ça existe de longue date. Pour autant, les loubars, c'est pas les jeunes d'aujourd'hui. Ne serait-ce que parce que les loubars, leur violence, leur côté autoritaire, l'affirmation virile, etc., ben ça s'intégrait à l'usine très rapidement. Et l'usine, c'était pas un monde qui s'opposait frontalement à ces valeurs-là. Pensez à l'anti-autoritarisme contre les petits chefs d'atelier, contre le contremaître. Ça, je dirais, le syndicalisme et le militantisme ouvrier l'ont très souvent récupéré. De la même manière, la virilité, la masculinité, tout ça s'affirmait dans l'atelier. Or, c'est un moment où l'emploi industriel non qualifié n'est plus accessible à ces jeunes-là. Dans le même temps, on les prolonge dans le système scolaire. Ils vont plus longtemps à l'école alors qu'ils n'y seraient pas allés. Et les valeurs dont ils sont porteurs, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école sans pour autant que l'école ne leur ouvre les portes d'un avenir meilleur qui est le leur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de marché de dupes, là, dont ils ne sont pas dupes. Et ça, ça sape les fondements de l'autorité scolaire. Ce n'est pas un hasard si l'essentiel des violences scolaires pose aujourd'hui problème au collège. Au lycée, l'écrémage a déjà été fait. Bref, on se retrouve avec un certain nombre de jeunesses, garçons pour l'essentiel, qu'on retrouve donc sur ces quartiers, qui ne sont ni intégrés dans le monde industriel, ni à l'école, et qui posent problème sur les quartiers. Ils posent problème sur les quartiers, pourquoi? Parce qu'ils foutent le bordel. Alors ils foutent le bordel à l'école, ils foutent le bordel dans les structures sociales, dans les centres sociaux, je veux dire, où ils vont sans participer. Enfin, ils foutent le bordel sur ces quartiers. Et à quoi est-ce qu'on assiste? Eh bien, on assiste à la déroute de tout un tas d'institutions sur ces quartiers qui ne savent pas quoi faire. Et alors, vers qui on va se retourner? On va se retourner vers la police. Et on va y avoir une augmentation, je dirais, multiforme, des demandes d'intervention policière sur ces quartiers en disant « Ces jeunes qui foutent le bordel, il faut que la police s'en occupe. » Et ça, c'est une des dimensions qui va expliquer massivement, je dirais, la focalisation des forces de police sur ces quartiers. Notamment parce que, les années 80, c'est pas neutre, vous commencez à avoir une prise en charge politique de ce dossier. Dans les années 60-70, la délinquance, c'est une affaire de police et de justice. Or, au tournant des années 80, s'investissent tout un tas d'autres acteurs, l'école, je l'ai dit, mais aussi et surtout les hommes politiques et notamment les hommes politiques locaux. Comment est-ce qu'ils s'y investissent? Ils s'y investissent vers une notion vague dont on ne sait pas grand-chose, qui s'appelle le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, on ne sait pas ce que c'est, on sait qu'il y a des peurs individuelles et collectives. Quoi qu'il advienne, c'est le point de départ en France de la gestion politique de la peur. C'est-à-dire que vous avez des hommes politiques qui vont dire « Ben moi, je peux rien faire sur la délinquance, mais sur le sentiment d'insécurité, je peux jouer. Je vais changer l'éclairage municipal, ça va rassurer les gens. Je vais recruter une police municipale qui va patrouiller, ça va rassurer mes électeurs. » Bref, c'est le point de départ du développement des grandes, de l'ensemble de ce type de mesures. Vous avez d'un côté cette prise en charge politique du dossier, qui d'ailleurs, c'est une parenthèse qui est intéressante, c'est que cette prise en charge du dossier par les hommes politiques va produire la spécialisation d'un certain nombre d'hommes politiques sur ces questions, qui vont devenir des véritables spécialistes de la sécurité, d'abord au sein de leur parti, puis au sein des représentations nationales, à l'Assemblée, au Sénat, et dans les associations transparties, comme l'Association des maires de France, etc. Et ces gens qui vont se retrouver systématiquement dans les mêmes arènes pour parler des mêmes choses, vont finir par partager des analyses et des visions communes. Et c'est comme ça, c'est un des éléments qui permet de comprendre que se dépolitise un débat qui opposait dans les années 70 une gauche garante de la liberté à une droite garante de la sécurité. Et aujourd'hui, le clivage gauche-droite en matière de sécurité n'est plus un clivage pertinent. Cet investissement des hommes politiques sur la sécurité, ces problèmes, ces transformations des quartiers, produisent une forme d'augmentation massive de l'intervention policière sur ces quartiers. Intervention policière qui pose des problèmes énormes, qui pose des problèmes au sein de la police. Parce que d'une part, la police pense que ce ne sont pas des missions importantes, et qu'en plus, ce sont des missions très difficiles à assumer. Une patrouille de police qui arrive en bas d'immeuble, elle fait un contrôle, qu'est-ce qu'elle trouve? Une barrette de shit, une bombe de lacrymo, pas de quoi envoyer quelqu'un pour 10 ans derrière les barreaux. les interventions se passent de plus en plus mal. Un des chiffres policiers qui augmente le plus, ça s'appelle outrage et rébellion. Outrage, c'est quand il y a des insultes, rébellion, c'est quand il y a des gestes. Ça, ça flambe depuis 10 ans. Ça vient enregistrer statistiquement, le durcissement des relations entre les jeunes des quartiers et la police. Donc la police, elle ne veut pas y aller. Elle a du mal à y aller. Et les mouvements policiers que vous avez vus récemment sont une conséquence de la transformation de ces missions de police. On a invoqué le fait qu'il y a des policiers qui ont été tués. C'est vrai, il y a des policiers qui ont été tués. Il y en a eu 10 qui ont été tués. On est de... À Washington, ça baissait de 55. À Houston, ça baissait de 48. Bon. Alors, soit ils ont tous eu peur de modèle new-yorkais, sans vous en douter, soit il y a eu d'autres raisons. Et d'autres raisons, et ben, il y en a plusieurs qu'on peut invoquer, c'est jamais monocausal. On s'est aperçu, il y avait quoi ? Il y a eu les conséquences de la guerre du crack des années 90, qui ont décimé des dizaines d'adolescents, et qui fait que les générations suivantes ont fait, on reste en dehors. Mais surtout, vous avez eu une reprise massive de l'emploi, de la croissance pardon, sur la côte Est, qui s'est traduite par la création massive d'emplois non qualifiés, ultra précaires, qui ont absorbé, je dirais, tout un tas de populations qui sont délinquantes. Ce qui est un vrai dilemme pour des progressistes, d'ailleurs. Mais c'est une parenthèse. Bon. Ce qui veut dire, a priori, que les formes de résolution policière de ces problèmes sont une forme de naïveté très très grande. On ne fait au mieux que déplacer les problèmes. D'ailleurs, on a envoyé des équipes de chercheurs dans les districts voisins, les districts phares de la zéro tolérance, et là, vous trouvez des chefs de police complètement à la rue, parce qu'ils ont récupéré tous les toxicomanes de tout le monde, tous de tous les autres. Donc, bref. Donc ça, c'est effectivement naïf. Pour autant, on a un regain, et là-dessus, je crois que le débat politique actuel ne change pas vraiment la donne, un regain énorme de la demande de punitivité des hommes politiques dans l'ensemble des pays occidentaux. C'est-à-dire que le discours politique aujourd'hui, c'est punir, punir, punir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait concentré les unités de police massivement sur ces quartiers, qu'on avait des structures judiciaires sur ces quartiers. Elles sont sans commune mesure dans les peines qu'elles prononcent avec les juridictions ordinaires. Elles sont beaucoup, beaucoup plus sévères. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut noter. La justice des mineurs, par exemple, est particulièrement représentative de cela. La justice des mineurs, le juge des enfants, au titre de l'ordonnance de 45, peut traiter un mineur délinquant de deux manières, soit au civil, qui va mettre un éducateur pour travailler avec un jeune, soit au pénal, avec un certain nombre de peines qui vont de sursis mis à l'épreuve jusqu'à la prison, qui n'est que le point extrême. On était, il y a 10 ans, à 4/5 de traitement civil pour 1/5 de traitement pénal au niveau national, on est à 4/5 de traitement pénal aujourd'hui. 9/10 dans la plupart des parquets parisiens. Le basculement de proportion est extraordinairement considérable. On a eu d'abord ce durcissement, on a eu une extension massive de la sphère pénale, c'est-à-dire tout un tas de comportements qui dans ces quartiers n'étaient pas pénalisés le deviennent. Et la loi sur la sécurité quotidienne l'a bien montré avec par exemple les fraudes dans les transports publics. Le délit d'habitude, hein, vous êtes au courant. Il a été moins une que le squat dans les halls d'immeubles ne devienne un délit. Donc, la dernière mouture de la loi disait on peut faire appel aux forces de police et de gendarmerie pour dégager les halls, et le squat dans le hall est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. La deuxième partie du paragraphe a zappé au dernier moment, heureusement. Autre exemple, les violences scolaires graves, il y a un enfant qui était blessé. Il y avait une poursuite pénale systématique. Aujourd'hui, le moindre fait de violence scolaire est envoyé directement devant les parquets. Donc vous avez, d'une part, massivement un durcissement, vous avez une extension massive de cette sphère pénale, et je dirais une punitivité de plus en plus affirmée, avec une demande de punition des hommes politiques, sans cesse réassénée dans l'ensemble des médias et dans l'ensemble, je dirais, des discours publics. Alors cette punitivité, je dirais, elle prend plusieurs formes, et on la retrouve dans l'ensemble des pays occidentaux. On la retrouve en Angleterre, par exemple. Vous avez la mairie de Manchester, qui fait un pilori dans le hall de la mairie. On met le portrait de tous les gens qui ont été condamnés dans la semaine. Intéressant, je trouve. Ça, c'est ça. Bon, je profite, je n'avais pas prévu de faire ça, mais il y a des installations techniques magnifiques, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Aux États-Unis, c'est par exemple ce genre de choses. Quand on parle des délinquants sexuels, vous tapez sur un moteur de recherche, je vous invite à le faire, sexual offenders, sur des délinquants sexuels, vous tombez sur des bases de données de ce type, et je n'ai pas des talents, donc je n'ai absolument rien bidouillé, je vais juste arriver sur la page d'accueil normale. Alors par exemple, je vois Michael Edmonton, je clique, donc je vois la photo de cette femme, je vais avoir les délits qu'elle a commis, c'est une femme qui a purgé sa peine, elle est sortie de prison, j'ai donc son adresse, je vois qu'elle a fait des propositions indécentes et des actes à des enfants, la date c'est en juin 1999. Donc j'ai son poids, sa taille, je vois qu'elle a un tatouage sur hip, qu'est-ce que c'est en anglais ? Sur la hanche gauche donc, et j'ai son adresse, d'accord ?
Ça marche ?
C'est un peu ralenti.
Oui, celui-là ne marche pas. Je donne un autre exemple, alors ce jeu-là, par exemple, je suis sur le comté du chef de Cherokee. On va prendre Danny Chatwick, par exemple. Là, c'est exactement la même chose. J'ai donc sa race, sa photo, son numéro de téléphone, etc. Bon, bah, j'ai la totale de ces données. Je ne l'ai pas trouvé parce que je n'avais pas prévu de ça. Vous en avez certains où vous avez la carte du quartier où il habite avec une petite tête de mort qui clignote sur la maison où il habite. C'est assez sympa. Bon, à tel point d'ailleurs que... Alors ça, qui est online sur Internet, ce n'est pas par hasard. C'est online sur Internet, c'est les plus officiels qu'on mette sur Internet. Loïc Vacan racontait dans un article du Monde Diplomatique qui était très drôle, pas si drôle, mais il y avait des passages drôles. Il raconte notamment que dans les foires, vous savez, les fêtes foraines, vous avez un stand de tir au pigeon, un stand de pêche au canard, et au milieu, vous avez un stand du ministère de la Justice avec des CD-ROM et des ordinateurs. Alors vous dites, moi j'habite, voilà, dans le 18e arrondissement, et hop, vous avez la photo de tous les délinquants sexuels qui ont purgé leur peine, qui habitent à côté de chez vous. C'est intéressant, à tel point d'ailleurs qu'un grand nombre d'entre eux ont été soit tués, soit lapidés par leurs voisins. Si bien que Janet Reno, qui était la ministre de la Justice de William Clinton, a été obligée à un moment donné elle a pensé créer dans le désert du Nebraska une ville spéciale pour les délinquants sexuels chassés de partout. C'est intéressant. Bon. Alors. Ouais, c'est bien ça. Alors bon, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus en France. C'est pas ça qu'on a. Effectivement, pour autant, on a quand même une réaffirmation systématique de la punitivité de nos hommes politiques. Robert Pambro proposait dans Le Monde récemment que les gens qui font des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire qui nettoient les graffitis, portent des treillis de couleurs pour qu'on puisse bien les identifier. Vous entendez le débat sur l'impunité, alors que je vous dis depuis tout à l'heure, si vous avez suivi ce que je vous dis, jamais la justice n'a été aussi punitive qu'aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une impunité terrible des délinquants. Oui, simplement, oui, dans les dernières nouvelles en date, la loi sur la présomption d'innocence vient d'être revue. Et l'Assemblée nationale vient de voter, donc aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, quelque chose qui appelle la récidive. Et si vous êtes condamné pour un délit quel qu'il soit, c'est-à-dire que vous avez une peine pénale, y compris d'ailleurs une médiation ou une conciliation pénale, ce qui est le minimum, et que vous êtes recondamné dans les 6 mois qui viennent, c'est une récidive qui pourrait se traduire, et se traduira certainement, par une peine de 6 mois d'emprisonnement, de toute manière. Là-dessus, il y a des choses qui sont très dures en train de passer.
Quel type de maître ?
N'importe lequel, puisque les conciliations pénales, c'est peut être violence très légère, ça peut être beaucoup de choses. Outrage, rébellion peut donner lieu à ça. Bon, c'est quelque chose.
On dit deux fois merde à un flic en l'espace de 6 mois et.
C'est pas bon. C'est pas bon. On est évité. Alors, donc. Pardon ? Ouais, c'est ça. C'est sur les référents. C'est ça.
Pour qu'ils puissent préparer leur défense, parce que sinon c'est pas possible, on va être obligé qu'ils fassent un gros flash pour mériter la prison. Ça, c'est pas normal.
C'est ça.
C'est la loi californienne.
Oui, c'est
ça.
La loi
californienne. Oui, quasiment, enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est...
Ils prennent le maximum de la peine encourue dès qu'il y a récidive.
C'est ça, c'est la peine californienne, c'est le free strike, c'est-à-dire out, c'est un terme de baseball, qui veut dire que vous faites un, mais c'est juste pour rien, c'est pas ma faute, c'est vous faites un délit, vous êtes condamné, vous faites un deuxième délit, vous êtes condamné, vous faites un troisième délit, quel que soit le délit, vous prenez 20 ans. Oui, ça peut être à vie, mais en principe c'est plutôt 20 ans, mais ça peut être à vie.
On avait parlé pour un type qui avait été comme ça, qui avait, je sais plus si c'était à vie ou 20 ans, parce qu'il avait piqué une part de pizza des mois.
Oui, c'est le dernier.
C'était le troisième truc qu'il faisait, et donc bah, là c'est perpète, 20 ans. Enfin,
bon, alors je voudrais pas être trop long, donc je vais vraiment terminer en disant que ce qui est intéressant, je crois, dans ce qui se passe, et pourquoi j'attire votre attention sur le traitement de ces quartiers, c'est que finalement, actuellement, il y a une pénalisation des militants, c'est très clair, il y a une pénalisation des mouvements sociaux, et tout au moins des nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire ceux qui ont recours à des répertoires d'actions différents hein, de la manifestation traditionnelle, etc. Mais je dirais, cette pénalisation, finalement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, elle est presque pâle, je dirais, parce que là, vous avez vraiment quelque chose, un durcissement énorme de la répression sur ces quartiers. Deux idées, c'est la question de pourquoi cette punitivité. Cette punitivité, je crois que c'est intéressant de le questionner. Je n'ai pas des réponses toutes données, mais je dirais que c'est quand même paradoxal que dans l'ensemble des démocraties occidentales, on assiste à ce regain de punitivité. On l'a en Belgique, on l'a en Angleterre, on l'a aux États-Unis, on l'a en France, on l'a un peu partout dans les discours des hommes politiques. Je crois que là-dessus, il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant, c'est de relire Foucault, Et quand Foucault disait que la montre, au départ de surveiller et punir, le supplice de Damien. Damien, c'est celui qui a tué le roi. Et le pauvre gars, on le torture pendant 4 jours en place de grève, on le découpe par petits morceaux, alors il crie, il appelle Dieu et tout, mais bon, enfin, au bout de 4 jours, on l'achève. Et il montre simplement comment, à un moment donné, je dirais, le pouvoir s'affirme par la manière de marquer les corps, de les punir, visiblement. Il montre la peine est liée au pouvoir. Il montre qu'au fur et à mesure que s'affirme le pouvoir de l'État, via la bureaucratisation, le développement d'outils de coercition, de contrôle, la police, la justice, l'armée, ben, cette punitivité, elle décroît, elle diminue. La guillotine, on la sort de la place de grève, on la met dans les prisons. Et au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de guillotine. Et je crois qu'il est quand même singulier de voir ce regain de punitivité partout, au moment où l'État, dans ces démocraties occidentales, abandonne une certaine part de souveraineté, en matière économique et financière notamment. Et je crois que c'est suffisamment massif, et je crois que le dernier en date, c'est quand même ce qui s'est passé le 1er janvier, quand un État a-t-il perdu le droit de battre sa monnaie ? Dans l'histoire de l'État français, c'est quelque chose qui n'a quand même pas été signalé, c'est unique. Depuis que la royauté existe, c'est la première fois que nous avons perdu le contrôle de l'émission de la monnaie. C'est quand même des phénomènes qui me paraissent relativement lourds de conséquences en termes de souveraineté. Et dire qu'on fait les choses en manière de sécurité, c'est une manière à la fois de réaffirmer cette souveraineté, et c'est aussi une manière de dire de manière très visible qu'on fait un certain nombre de choses. J'amènerai en disant simplement que le problème de ce mouvement, c'est qu'on continue sur une concentration des forces de police sur ces quartiers, on continue à les développer, et que la situation se durcit. La situation se durcit parce que c'est à la fois ça ne résout pas les problèmes, les relations se tendent entre les jeunes de ces quartiers et la police, on a une espèce d'escalade, je dirais, de durcissement. Escalade de durcissement, je dirais, qui se fait de manière complètement inégale, inégalitaire. Et je crois que c'est aussi, ça sera ma conclusion, je crois qu'il est singulier de constater que quand Carlo Giuliani est tué, ce qui est un drame, il y a 300 000 personnes qui ont manifesté, et c'est très bien. Combien de jeunes de cité sont tués chaque année? Combien de mobilisations? Et combien de gens dans ces mobilisations? Je crois que vous comprenez aussi le fossé qui se creuse entre deux formes de société, et y compris entre les militants d'une société, je dirais, et un certain nombre de populations. Je m'arrête là.
Il y avait des gens qui vont intervenir.
Je voudrais juste rajouter deux choses par rapport à ce qu'a dit Laurent. La première, par rapport justement à l'idée que de plus en plus jeunes, on prenait des peines pénales de plus en plus lourdes, la LSQ avait prévu ça dans le projet initial. La majorité pénale, qui actuellement est à 13 ans, pas extrêmement élevée, a été prévue qu'elle soit mise à 10 ans. À 10 ans, on devient responsable, on devait devenir responsable pénalement. Ça n'a pas été mis en place finalement. Ça reste quand même après. Donc cette idée toujours de plus en plus de responsables, il faut punir, c'était présent dans la LSQ. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, je vais me sortir à l'esprit, donc ça problème aussi, je vais faire un point biographique, j'aime beaucoup Foucault, mais après je vous disais plutôt, il faut défendre la société. Ça me fait qu'il écrit après qu'il reprend justement toute cette idée qui a été développée d'avant soyez punir, de dangerosité, de comment se protéger. Et ça vient donc de me revenir à la troisième chose. Par rapport au fait que les mouvements sociaux sont de plus en plus criminalisés. En fait, le problème, comme pour les jeunes des banlieues, ou pour certes, les nouvelles formes de contestation, avant, l'État ne posait pas de problème parce qu'il y avait des bureaux déposés, ce n'était pas des institutions, mais bon, il y avait des groupes clairement définis, avec des leaders, avec des responsables, et ça permettait un contrôle beaucoup plus important. Les nouvelles formes de contestation, ce sont souvent des groupes, des gens qui se réunissent spontanément pour une cause, que ce soit pour une émeute, que ce soit pour une manifestation. C'est des groupes qui ne sont pas forcément liés entre eux, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne disent pas. Il n'y a pas vraiment de tête de leader. C'est ce qui leur fait le plus peur. Et c'est pour ça que ça tape de plus en plus fort. Il y a même un débat qui commence à discuter dans la classe politique, auquel Attaque d'ailleurs n'est pas totalement étranger, qui dit, bah voilà, il y a une contestation qu'on pourrait qualifier de légale. Des gens qui ont le droit de contester, qui pourraient être reconnus, nous, enfin quand je dis nous, on parle des gens d'Attaque, c'est pas moi. Il y a pour rassurer aussi. Et puis il y a les autres qui eux, bah, c'est pas vraiment des bons contestataires. Donc il faut faire la séparation entre bons contestataires et mauvais contestataires. Et ce discours, il est en train de revenir, il est en train d'être débattu, et c'est en train de grossir. Ouais. Et une dernière chose, depuis tout à l'heure, Jean, il était hier à ma place, moi je suis une vraie place de Jean, et je suis Tini Jean-Marc.
Attends pour moi.
Je
suis paumé là.
Oui, je vois. T'inquiète pas.
Tout à l'heure, Laurent a parlé de la réalité du sentiment d'insécurité. Et il y a un autre aspect. Je me rappelle, nous, il y a 2 ans, on a été invité à un colloque au Havre par la municipalité par rapport à la co-veillance. La co-veillance, c'est ce système
qui fait qu'on peut regarder de sa télé les voisins qui sont dans le parking. Pour ce colloque, il y avait évidemment la police du Havre qui était invitée, mais il y avait aussi les services de domotique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on vendait la surveillance de piquage, on vendait le confort. Et il semblerait, moi je parlais tout à l'heure, du mode de vie, du comportement qui petit à petit se développe à travers les fichiers, la vidéosurveillance, etc. Donc en même temps, est-ce que ce sentiment d'insécurité n'est pas lié aussi à une société de plus en plus confortable où les uns et les autres, finalement, quelle est la réalité du sentiment d'insécurité? Il n'y a pas que la délinquance, il y a aussi ce fait qu'on vient dans une société où le confort, les biens, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et ça intervient aussi sur les bases sur la sécurité quand on n'a plus de projets sociaux, ni gauche, ni droite à proposer. Et ça devient le fer de lance de la campagne électorale parce qu'il n'y a plus de projets sociaux à proposer. Mais il n'y a pas que le plicage, il y a aussi par nous-mêmes le confort, ce qu'on nous vend, qu'on l'aille ou pas, qu'on soit pauvre ou riche, on nous vend le confort partout à longueur de télé. Même si on est dans une cité, on finit par être frustré par rapport à la société de confort. Enfin, tout ça se mord la queue. Mais en même temps qu'on nous vend la police, on nous vend la domotique, on nous vend le confort. C'est donc vraiment une réflexion à avoir sur le mode de vie. Et là, maintenant, je vais essayer de me changer les idées. Je ne voudrais pas être trop déprimé. Et j'espère que vous allez parler après du forum d'insoumission et de désobéissance et des actions qui sont prévues fin février.
Justine, et...
En deux mots, quand le ministre de l'Intérieur dit voilà les statistiques de la délinquance augmentent de 3%, baissent de 4%, etc., sur quoi il se base? Il se base, on a un outil pour ça, qui s'appelle, qui a une grille de comptabilité policière, qui s'appelle l'État 4001. C'est une grille, je parle des termes barbares, c'est une grille en 107 rubriques. C'est une grille en 107 rubriques de recensement des faits de délinquance. Comment cette grille est alimentée? Elle est alimentée, premièrement, on vous vole votre voiture. Vous allez au commissariat, vous dites on m'a volé ma voiture. À la case vol de voiture, pour faire une barrette. Ça, c'est 80% du chiffre de la délinquance. 80% de ce chiffre, ça vient du dépôt de plainte. Les 20% qui restent, c'est ce qu'on appelle l'initiative policière, c'est-à-dire... Voilà, la police arrive fuyée. Je sais pas, c'est vrai. Bref, c'est la police arrive fuyée. Bon, donc 80% de ce chiffre vient, si vous voulez, du dépôt de plainte. Les 20% qui restent, c'est ce qu'on appelle l'initiative policière. C'est-à-dire la police est sur la voie publique, elle voit quelqu'un en train de voler une voiture, elle l'arrête, elle rentre au commissariat, dans la case vol de voiture, elle va mettre un deuxième bâton. Et à la fin de la semaine, du mois, de l'année, on compte les bâtons, et c'est ça qui donne le chiffre de la délinquance. Alors, quelques commentaires rapides sur ces questions de chiffres, sur ces questions sur cet indicateur. Sur cet indicateur, c'est que, premièrement, vous comprenez bien que si l'exemple que j'ai pris du vol de voiture est assez significatif, puisque vous allez aller régulièrement porter plainte si on vous vole votre voiture, parce que l'assurance va vous demander un récépissé de dépôt de plainte, vous comprenez que si on commence à parler des violences conjugales, par exemple, on risque d'avoir un report des plaintes un petit peu moins sur les violences conjugales. Deuxième chose, il y a des formes de délit qui ne nécessitent pas de dépôt de plainte. Une fraude fiscale, fraude économique et financière, ne donne pas lieu à un dépôt de plainte, puisqu'il n'y a pas de victime directe. D'accord ? Donc déjà, je dirais, cet élément nous renseigne sur un certain nombre de choses, mais pas sur l'état de la délinquance de manière générale. Deuxième chose, enfin, encore, je dirais, dans cette dimension-là, les récentes réformes de police, depuis le début des années 80, mettent l'accent sur faciliter le dépôt de plainte. La récente réforme de police de proximité, par exemple, favorise ça. Et vous avez aujourd'hui les chefs de police confrontés à des véritables dilemmes, qui effectivement favorisent le dépôt de plainte en mettant des gens plus qualifiés à l'accueil, etc., etc., et qui se font engueuler parce que leurs chiffres augmentent. Ben oui, c'est logique. Ils disent, ben voilà, ça représente 80% du chiffre, donc ils prennent mieux, donc ça augmente, et ils se font engueuler parce que ça augmente. Alors, vous avez, ils bricolent, hein, j'en ai un notamment, là, il me disait, bon, c'est simple, j'avais un centre commercial, je prenais les plaintes à 800 francs, je l'ai passé à 1200 francs, et maintenant, voilà, je bricole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question de l'initiative policière dont je vous parlais. Les 20% qui restent. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, on a mis de plus en plus d'unités sur la voie publique. Mais plus vous mettez d'unités sur la voie publique, plus vous constatez des délits de voie publique. C'est très clair. Ça a été particulièrement net pour la délinquance des mineurs en Seine-Saint-Denis. Vous voyez la courbe de la délinquance des mineurs flamber en Seine-Saint-Denis avec un temps en retard par rapport à la diffusion de brigades spécialement dédiées à la délinquance des mineurs. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon. Ok, ce que je veux dire, c'est que là, je suis en train de vous démonter, je dirais, l'outil, finalement, que dit cet outil ? On lui fait dire beaucoup d'autres choses que ce qu'il dit, finalement, puisque ce n'est pas un reflet de la délinquance. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on sait réellement de la délinquance ? Parce qu'il y a du se passe des choses, la délinquance, ça existe, il y a des faits, etc. Bon, ben ça, on n'en sait pas grand-chose. La seule chose qu'on sait, les seules choses dont on est sûr, parce que les historiens nous l'ont montré, c'est que dans l'ensemble des pays occidentaux, je dirais, il y a un déclin séculaire de la violence physique sous toutes ses formes. Il y a moins de morts et moins d'agressions physiques en France aujourd'hui qu'il y a 50 ans, moins il y a 50 ans qu'il y a 100 ans, moins il y a 100 ans qu'il y a 500 ans. Il y a un déclin historique qui est lié au processus de civilisation, bref. Il y a tout un tas de choses, c'est-à-dire que ça, ça diminue partout. Pensez d'ailleurs à la violence, par exemple, du Moyen-Âge ou de la violence du 19e siècle. Au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas peur de mourir, ils avaient peur de perdre leur âme. Parce que mourir, c'était inscrit dans leur futur très proche, je dirais. Alors, un des paradoxes, enfin, mais ce n'est qu'une paradoxe qu'en apparence, c'est que une des conséquences du fait que ça soit beaucoup plus rare qu'avant, c'est que la part résiduelle de cette violence paraît beaucoup plus insupportable. C'est beaucoup plus insupportable d'être blessé et d'être tué aujourd'hui que c'est rare, que quand c'est très fréquent. C'est quelque chose qui est logique. Donc vous avez eu un abaissement du seuil de tolérance à tout un tas de comportements. Et si il est vrai aujourd'hui qu'on peut se préoccuper du squat de jeunes dans un hall d'immeuble, qui peut être vraiment insupportable. Ça peut être vraiment insupportable d'avoir des jeunes dans un hall d'immeuble qui agressent, qui sont violents, qui dégradent, etc. Ben, c'est aussi parce qu'on ne risque pas d'être tué ou blessé. Je dirais, vous avez un niveau de relativité, Jean-Pierre disait par rapport au confort, vous avez un niveau de relativité très très important. Voilà, je dirais à peu près ce qu'on sait, je dirais, de la délinquance. Ce qui n'est pas vraiment très... beaucoup, hein, je serais d'accord avec moi, mais c'est très quelque chose qui est finalement très compliqué à gérer et à comprendre. Dernier point, simplement, par contre, une des tendances qu'on a à l'analyse de cette délinquance, c'est l'autonomisation de la délinquance par rapport à tout un tas de choses. Quand je dis autonomisation de la délinquance par rapport à tout un tas de choses, c'est qu'on fait finalement, et là-dessus le gouvernement socialiste l'a bien montré en 97, c'est que on fait comme si la délinquance, si le jeune il était délinquant, et puis c'est tout. Alors qu'on est délinquant en même temps qu'on est à l'école, qu'on est dans sa famille, qu'on est, enfin, etc. C'est-à-dire que finalement, la délinquance, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un processus de vie. C'est-à-dire vous êtes dans une vie et il y a des actes délinquants. Ce n'est pas quelque chose de coupé par rapport au reste, je dirais, de la vie. Le problème de cette autonomisation, c'est que on pensait, notamment au début des années 80, finalement, que la délinquance avait des causes sociales. Et un des objets de la politique de la ville dont je vous ai parlé, c'était de dire, bah, si on joue sur le développement social des quartiers... Par exemple, un bon exemple, c'était la toxicomanie. On pensait qu'un toxicomane, c'était potentiellement effectivement un délinquant, parce que souvent, il piquait des autoradios pour payer sa canne, c'était clair, mais que ça, c'était un problème global, avec de la santé publique, avec un certain nombre de choses. Vous avez un virage très très net qui s'opère au milieu des années 90, avec notamment la proclamation de l'échec de la politique de la ville, hein, pour le dire très vite. Ce n'est pas un hasard, le premier gouvernement Jospin de 97 n'a même pas de ministre de la ville. Claude Barthelot, le ministre de la ville, sera nommé en mars 98, presque un an plus tard. Et vous avez un revirement idéologique très très fort sur cette dimension-là, qui est lié à ce qui se passe aux États-Unis notamment, qui est, finalement, il n'y a pas de cause sociale au crime. Christophe Karech, l'adjoint au maire de Delanoë à la sécurité, l'a dit très nettement, il a dit, il n'y a pas de cause sociale au crime. Julien Drey, aux assises du PS sur la sécurité à Évry, disait récemment, en substance, une fois n'est pas coutume, référons-nous aux économistes néolibéraux, Le délinquant est un homo economicus rationnel qui choisit la délinquance en fonction d'un calcul coût-avantage. C'est l'abandon massif de l'idée qu'il y a des causes sociales au crime. Et donc, si le délinquant est le seul responsable finalement de ses actes, ça permet de justifier et de légitimer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième point, je terminerai là-dessus, c'est que l'autonomisation, elle se fait aussi au niveau des gens qui habitent dans ces quartiers. Comme si la délinquance et le sentiment d'insécurité étaient, je dirais, le seul problème majeur que rencontraient ces gens-là. Il ne s'agit pas de dire que ces gens-là n'ont pas des problèmes par rapport à la délinquance, par rapport à l'insécurité. C'est très clair. Mais c'est quelque chose qui, là encore, n'est pas complètement une bulle à part des autres problèmes qu'ils rencontrent particulièrement dans des quartiers que je vous ai décrits tout à l'heure, qui se sont très largement dégradés. Et il est très intéressant à cet égard de suivre des hommes politiques dans des réunions sur la sécurité dans les quartiers, parce qu'on passe de la sécurité, on glisse très rapidement au cadre de vie, etc., etc. Il y a une dimension qui, à mon avis, est scientifiquement assez amusante quand on le cherche, c'est vous prenez le service public, vous prenez un citoyen égale X% de service public, c'est-à-dire X% d'infirmières, de médecins, de pompiers, etc., etc. Prenez ces quartiers, vous êtes de la disparité de 1 à 10. Prenez les délais d'intervention de EDF, GDF pour réparer une panne, prenez ce genre de choses, vous avez des disparités énormes. Et là-dessus, effectivement, on s'aperçoit que, alors que la lutte contre l'insécurité, c'est quelque chose qui existait au 19e siècle, mais que l'insécurité, c'était lié à la condition salariale, c'est-à-dire que celui qui était en insécurité, c'était le salarié, parce que le salarié n'avait que ses bras, et s'il était malade, s'il était vieux, ben, il n'avait plus rien, et que la lutte contre l'insécurité, ça a été le développement d'un certain nombre d'institutions de protection, le chômage, les retraites, etc. Au tournant des années 80, on va télescoper insécurité et peur du crime. Je crois que c'est un phénomène qui n'est pas inintéressant et qui est ben, justement une des conséquences de cette autonomisation de la délinquance à tous les niveaux.
Personnes qui sont habilitées à opérer sur tous les champs qui sont élargis, comme la perquisition, fouiller les coffres de bagnole, la télé-perquisition des ordinateurs, je crois, des trucs comme ça.
C'est
aux États-Unis, absolument.
C'est la criminalité.
Toujours est-il que j'ai vu dans la LSQ le champ des personnels habilité à tout ça est élargi aussi. Que ce soit de la police municipale, aussi bien que des volontaires qui sont en charge d'intervenir, des trucs comme ça. Maintenant, pour tempérer un petit peu ce que tu disais au sujet de la différence de proportion des moyens policiers, pour tout ce qui est de s'occuper de la criminalité, on va dire, la criminalité quotidienne et de la criminalité un petit peu élaborée qu'est la cybercriminalité, c'est que de plus en plus, le traitement de la cybercriminalité, ce sera quelque chose d'automatisé, quelque chose qui nécessitera de moins en moins de moyens humains. À terme, ce sera quelques gros mainframes dans un coin qui calculeront des trucs en permanence. Et je ne pense pas que le nombre de policiers qui soient mis sur l'un ou l'autre des deux champs soit vraiment significatif du danger pour tout un chacun que peut représenter des textes comme ça.
Alors, deux choses. C'est, sur cette dimension, je parlais en termes de moyens humains, mais je parlais en termes de priorité policière. C'est-à-dire qu'actuellement, la priorité policière a quand même été mise très largement parce qu'il y a eu une demande politique très forte sur cette question-là depuis une vingtaine d'années. Qui n'empêche pas, effectivement, qu'on a moins besoin de gens pour contrôler la cybercriminalité que des quartiers. Sur la question de la délégation, enfin de l'extension massive, c'est que la France, comme un certain nombre de pays occidentaux, n'a jamais autant finalement délégué les missions de sécurité. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la police qui contrôle l'ensemble des choses, mais on n'a pas tellement une délégation ou une privatisation de la sécurité, on a une extension de la sphère de la sécurité. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que la police délègue des missions qui étaient les siennes à d'autres, c'est que la police délègue des missions qui n'étaient pas les siennes et qu'elle ne faisait pas à d'autres. C'est plutôt ça. Donc on a une espèce d'extension massive. Alors extension à qui ? À la sécurité privée d'abord. Vous avez 114 000 policiers en France aujourd'hui, vous avez 110 000 agents de sécurité privée. Et pratiquement autant d'agents de sécurité privée que de policiers. C'est important. Les polices municipales, vous avez 14 000 policiers municipaux en France. Mais aussi, et de plus en plus... Regardez, les transporteurs, les bailleurs ont tous et ont de plus en plus leur propre service de sécurité. J'ai vu avec stupéfaction tout à l'heure et avec stupeur le GSPR du métro qui aujourd'hui ont des armes à feu. Pardon ? Les brigades du métro sont armées avec des revolvers.
J'ai assisté à un meurtre dans le métro par un gardien que c'était il y a... ça devait être en 92 ou 91.
Des revolvers ?
J'étais le seul témoin, je n'ai pas été arrivé au procès, puisque les autres témoins étaient américains, c'était les Américains. On a assisté, le mec, gardien de sécurité, il avait une arme. C'est après qu'ils n'ont plus d'armes à cause de ce genre de problème.
Mais là, ils en ont à nouveau.
Mais là, ils
en
ont à nouveau.
Le GSPR en a, en tout cas.
C'est la LSQ qui a prévu ça.
C'est la LSQ, oui.
Bon. Depuis plusieurs mois, qu'est-ce que, déjà, moi, je sais qu'il y a plusieurs mois, je descendais régulièrement à Pont-de-Clignancourt. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, en président, les gens qui vont descendre régulièrement dans les terminus, mais depuis quelques mois, vous savez, des maîtres chiens qui sont là pour guider
les rames qui ont fini leur service. Et ça, depuis plusieurs mois, en fait, quelques mois, j'en voyais régulièrement un qui avait un flingue. Je pense que ça devait être un pistolet à grenade et tout ça, disons, c'est pour la. Je pense que c'est largement avant la LSQ, de toute façon. Donc, je pense que ça devait être justement un pistolet à grenade, disons, pour impressionner, mais disons quand même que disons, ça, personne n'a réagissé. C'est déjà le. Déjà, ça donne, disons, c'est que ça donnait l'habitude aux gens.
Bon, et quoi qu'il advienne, tous les pouvoirs ont été. C'est-à-dire qu'il y a cette délégation, et là, effectivement, il y a eu une délégation prévue. Il y a eu une délégation progressive des pouvoirs à un certain nombre de choses. Ça a été d'abord aux polices municipales. Les polices municipales ont reçu le droit de contrôler les identités, etc. Et la loi sur la sécurité quotidienne en rajoute une louche aujourd'hui en permettant effectivement aux vigiles, aux policiers municipaux de contrôler votre identité avec votre consentement. Toutefois, il faut quand même le rappeler. Puisque vous soyez.
Ils peuvent vous empêcher de passer si on refuse de donner
ça. Ils doivent appeler un officier de police judiciaire.
Mais par exemple, quand ils contrôlent un tenant théâtre.
Ah bah oui.
Ils peuvent fouiller, ils n'ont pas le droit de vous fouiller. Enfin, ils ont le droit de vous fouiller, mais vous pouvez refuser.
Oui.
Mais ils ont le droit de vous refuser le passage.
Bah oui.
Voilà. Je voudrais encore apporter le témoignage de la province profonde. Parce que ça me paraît très intéressant de comparer bon, ce qui se passe dans les grandes villes où il y a effectivement des quartiers difficiles, où il y a une concentration de forces de police et où bon, la situation est critique. Et ce qui se passe dans de très petites villes de province, alors je viens de Tulle en Corrèze, Tulle tout le monde connaît parce que bon, c'est nationalement un endroit important. Mais c'est une petite ville très tranquille, bon, où il n'y a pas de délinquance grave, etc. Bon, or, à Tulle, il y a deux supermarchés. Un qui est équipé de caméras vidéo de surveillance et de vigile avec des chiens, dans lequel il est arrivé un incident que je raconterai ensuite. L'autre qui n'a pas d'équipement spécial et où tout va bien. Celui que je fréquente. Bon, récemment, j'ai assisté au bureau de poste à une conversation au guichet à laquelle bon, les clients ont été associés. Bon, quelqu'un s'était fait piquer sa sacoche avec ses papiers, ses clés de voiture sur le parking du supermarché non équipé de vidéo caméra. Et tout le monde disait, mais quand même, c'est pas normal que, bon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, bon, je sais qu'il y a déjà plein de gens qui ont demandé que ce magasin s'équipe, etc. Enfin, c'est le signe, hein, bon. Et donc, dans le magasin équipé, au lendemain du jour de l'an, il y a une jeune femme d'origine bulgare, sans papier, qui s'est faite choper à la caisse du magasin par les vigiles. Elle avait pris 6 bouteilles de champagne dans le vélo et elle essayait de quitter le magasin avec les 6 bouteilles. Sauf que vous savez ce qu'elle a écopé ? 6 mois de tôle ferme. Bon, il y a la double peine, on peut imaginer. Bon. Je ne sais pas où on va mettre les gens dans les prisons à force de 6 mois.
Bah, déjà, il y a un truc, c'est que le lendemain des attentats, dès que Vigipirate a été renforcé, parce que Vigipirate donc, existe depuis très très longtemps, maintenant on a grandi avec Vigipirate, donc là ils l'ont renforcé. Les statistiques ont été données, je ne sais plus si c'est dans le GISTI,
Massimal.
C'était en moyenne, dans les centres de rétention, plus 30%. Bon, on sait les conditions dans lesquelles les sans-papiers sont mis dans les centres de rétention, c'est pas des hôtels 3 étoiles, plus 30% de personnes à l'intérieur, c'est assez inquiétant. Et il y avait certains centres en région parisienne, c'est plus 45, presque plus 50% d'occupation à l'intérieur. Donc c'est vrai, il y a vraiment une. Enfin c'est plus que rampant ce niveau-là.
Et il y a un véritable problème, excuse-moi, juste un mot. Il y a un véritable problème. Je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on savait de la délinquance? Est-ce que vous paraissez par exemple que c'est entre les affrontements entre groupes de jeunes de cité qu'il y a le plus de morts et de blessés chaque année? Ben non, c'est dans les balles de village. Ben oui. C'est les balles de village. C'est les balles de village qui sont les plus meurtriers dans les groupes de jeunes, dans les affrontements de groupes de jeunes et qui blessent le plus de gens.
C'est l'alcool.
L'alcool. Pas seulement, je crois que c'est autre chose.
Avec tout ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on disait la même chose il y a 40 ans, pour le sport, pour tout. Et cette phrase, elle est mais inchangée, brute, toujours identique, avec tout ce qui se passe maintenant, mais elle n'est pas à la même époque. Quoi.
C'est mieux avant.
Je voudrais réagir à ça justement, mais est-ce que tu es la dame de province?
De Tulle.
Une grande ville de province. Et donc, justement, c'est-à-dire que
n'y a pas beaucoup d'alternatives présentées dans les médias au tout sécuritaire. C'est-à-dire que les partisans, je ne sais pas, de plus d'éducation dans les cités, ou de plus de moyens pour les enfants, pour leurs écoles, plus d'éducateurs, etc. Ces partisans-là, on ne les entend pas souvent hein, dans les médias. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va vers une société de sous-hommes, en fait. C'est-à-dire que, comme aux États-Unis, où il y a un grand nombre de personnes, en fait, pauvres, qui vont en prison, je crois qu'en fait, c'est un pourcentage de gens d'origine pauvre qui finissent en prison aux États-Unis est énorme. Hein. Je ne vais pas dire mais je suis l'odeur que c'est dans les 10, 20, peut-être 30%, je ne sais pas. Et donc, ces gens-là, souvent aux États-Unis d'ailleurs, donc ils ont le choix soit entre travailler dans des conditions infâmes pour des gens qui les exploitent, en fait, littéralement, soit s'ils se rebellent, en fait, aller en prison, où là, c'est carrément le travail forcé, souvent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de prisons privées aux États-Unis où les gens sont obligés de travailler pour le boucher de pain, en fait, sinon les gardiens ont le droit de leur tirer dessus, tout simplement. S'ils refusent de travailler, on peut tirer dans le tas. Et donc, on va véritablement vers une société de sous-hommes. Donc il y aura les gens du tiers-monde qui sont exploités parce qu'ils sont dans des pays pauvres, et puis il y aura les gens du quart-monde qui sont exploités parce qu'on n'a pas donné d'argent pour leur éducation, on n'aura pas essayé d'en faire des êtres humains, et ils seront devenus des...
Alors attention, les voies n'ont pas été... les voies qui ont été choisies sont quand même différentes, il y a des histoires nationales différentes, etc. Les États-Unis ont fait un choix qui est le choix de carcéraliser, de mettre effectivement massivement en prison une partie de leur population exclue. C'est très clair. Alors, il n'y a pas 30%. Il y a actuellement 2,5 millions de personnes qui sont incarcérées en prison, bon, sont des prisons aux États-Unis. Il y a 6,5 millions de personnes qui dépendent du système carcéral. C'est quelque chose d'énorme. Un noir sur quatre connaîtra la prison durant sa vie. Vous voyez, c'est des choses énormes. Ça a été effectivement une politique très cohérente qui était liée notamment à des politiques autour de la tolérance zéro, etc. C'était, on poursuit systématiquement les petits délits, on se poursuit notamment la majorité, l'inflation pénale aux États-Unis a été la consommation de stupéfiants. C'est de cette manière-là qu'on a incarcéré le plus de gens. Bon. En France, on n'a pas fait ce choix-là. On a plus de monde dans les prisons en France parce que les peines s'allongent. En France, on a un allongement de la durée des peines et un flux qui ne se tarit pas. Il y a moins de gens qui sortent et il y a toujours autant de gens qui rentrent. Donc les prisons gonflent. Pour autant, en France, on est sur un système bâtard où on a un peu de mal, si tu veux, à essayer de sortir de ça. Alors on ne sait pas. Il y a absolument un mythe qui est d'essayer d'écarter les gens, de les écarter des quartiers, etc. Bon, c'est bricolé. C'est à la fois qu'on le fait traiter policièrement, on a fait des nouveaux boulots qui sont des médiateurs, etc. On leur demande de maintenir l'ordre social. Et puis, voilà. Attends, je termine juste une citation. Parce que je trouve qu'elle est. C'est simplement.
C'est la machine à punir, oui. Pratique et discours sécuritaire, c'est l'esprit frappeur. Bon. C'est une réalisation collective où Laurent a. C'est assez intéressant.
Je crois, une 10-11 exemplaires à 4,60€.
Il reste des faux papiers ou pas?
C'est parce que.
Non.
Par rapport à ce que disait la copine tout à l'heure sur la jeunesse. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, pardon. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Ça, c'est une poterie d'argile à Babylone, moins 1000 avant Jésus-Christ. Vous relisez Socrate, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même un récurrent historique, effectivement, de la jeunesse comme turbulente. Pour autant, je dirais, ce qui n'empêche pas de dire que, je vous ai décrit l'évolution des quartiers tout à l'heure, ça pose un certain nombre de problèmes, effectivement, il y a des populations qui sont inintégrées dans cette société et sans doute inintégrables en l'état, en l'état de la société. Ce qui est un véritable problème et qui pose des vraies questions de désordre et des vraies questions de problèmes, y compris des militants qui travaillent sur ces quartiers, sont mis en difficulté, je dirais, pour travailler avec ces gamins. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Bon, maintenant, ça appelle effectivement ce type de relativisation d'une part, et puis sans doute d'autres modes, d'imagination politique pour sortir, je dirais, de ces situations-là.
À recourir à la force, mais personne individuellement.
Alors, il y a Isabelle Coutan, sociologue, qui a travaillé sur les squats à Paris, enfin, qui s'appelle Politique du squat. Alors, elle s'est pas interrogée sur les squats politico-artistiques, c'est sur les squats de, famille de Maliens. Elle a travaillé sur les squats de famille de Maliens dans le 18e. Et elle montre justement que qui sont les gens les plus intolérants au squat, véritablement les plus intolérants au squat, ben, c'est les gens les plus précaires. C'est-à-dire, c'est objectivement ceux qui ont le plus de chances de basculer dans le squat. Et on s'aperçoit que là-dessus, effectivement, le grand bourgeois du 5e arrondissement, je dirais le squat de famille de Maliens, il est même plutôt favorable. De toute façon, c'est pas dans son entourage proche, c'est pas à lui que ça va poser des problèmes. Les dégradations, c'est la même chose, ils s'en foutent, il n'est pas concerné, et il peut être intellectuellement d'accord avec. Pour autant, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des véritables problèmes, et qu'il y a de véritables problèmes sur ce que tu dis du squat, mais dans les quartiers populaires, qui est que la précarisation massive de tout un tas de populations qui finalement essaient de s'en sortir, etc., etc., essaient de s'en sortir en ayant des boulots précaires, en galérant complètement, ben, se retrouvent justement très intolérantes, je dirais, par rapport à une frange de la jeunesse marginalisée qui est juste de l'autre côté. Mais finalement, il n'en faudrait pas grand-chose pour que eux ou leurs enfants, et c'est très fréquemment ça, la peur complète, c'est que leurs enfants basculent et soient de l'autre côté. Les pauvres sont beaucoup plus, je dirais les précaires, sont beaucoup plus intolérants envers les plus précaires qu'eux que les autres.
Mais c'est vrai que la violence physique...
Oui, mais ça, après, je dirais, le recours à la violence physique, je dirais, on le retrouve en milieu populaire de manière assez nette. Je dirais, dans le monde ouvrier, par exemple, c'est très présent. Donc, effectivement, il y aura sans doute un recours à la violence physique plus facilement. À autre chose, parce que ne serait-ce qu'un précaire, il aura plus facilement recours à la violence physique pour régler un problème que l'idée d'aller appeler un avocat, etc., etc., pour régler les questions, ça lui coûtera cher, c'est même pas dans son schéma mental de le faire, de régler les choses.
Je l'ai
rencontré
de la
touche
de
quelqu'un
qui
faisait
un
stage passé,
etc.
C'est pire, ça
les sort. Par rapport à ce qui a été dit, sur le fait que où est-ce qu'on va mettre les délinquants dans le nouveau projet de loi sur les prisons qui arrivent, on a prévu la construction de 35 nouvelles prisons. Il y aura de la place. De toute manière, toujours dans ce cadre du projet de loi, où c'est pour y avoir surpopulation, il y a aussi un petit alinéa qui est prévu, c'est que si on paye, on peut diminuer le nombre de temps qu'on reste en prison. Donc plus on paye, moins on reste longtemps, moins on a de thunes, plus on reste longtemps. Donc là aussi, il va y avoir de nouveau une prison à deux vitesses. Et si en France, le travail forcé n'existe pas comme aux États-Unis, bosser 7 jours sur 7 sans congé payé, sans congé maladie, sans quoi que ce soit, pour faire 350 balles par mois, c'est peut-être pas des travaux forcés. Mais en tout cas, c'en est pas loin. Et par rapport justement à tout...
Le cirrosé électronique. Les prisons privées.
De manière, les prisons privées sont en train d'arriver, il n'y a pas de problème, les Sodexo ou d'autres comme eux s'en occupent. Par rapport au Et par rapport à l'adoption du discours, il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer, mais il y a beaucoup de discours de droite, de gauche, on se retrouve sur le tout sécuritaire. Il y a deux choses qui sont présentes. Tout comme dans les années 80, il y avait uniquement les Samoas qui développaient certains thèmes autour de l'immigration, et puis après, on a des discours politiques dits plus classiques, traditionnels. Il y a eu le mot de seuil de tolérance qui sont arrivés. Et quand les 33 grosses mairies sont tombées, donc Marignane, Orange, Toulon, Bruno Maigret a dit voilà, on a gagné avec les mots. Parce qu'on a réussi à faire passer ce discours-là. Aujourd'hui, sur le discours sécuritaire, il y a quelqu'un qui est le monsieur spécialiste, qui publie en nom de notre labo, s'appelle Alain Bauer, qui est reconnu comme le grand spécialiste de la sécurité. Mais les gens avec qui il travaille, entre autres, un de ses principaux collaborateurs, c'est quelqu'un qui est lié au journal Minute.
C'est un ancien d'Occident.
C'est un ancien d'Occident.
Qui est professeur, par ailleurs, à la Sorbonne, je crois.
En fait, attendez, Alain Bauer, si on fait son profil, c'est quelqu'un d'intéressant. C'est un militant du PS. Il est carté au PS depuis 77. C'est un grand copain de Manuel Valls, donc le chargé de communication de Jospin, c'est quelqu'un qui est au PS, qui était lié à l'AMNET, etc., etc. Il travaille effectivement avec Xavier Hofer, qui lui est chargé de cours à l'Institut de criminologie d'Assas, qui lui est un fondateur d'Occident chrétien. Alors vous avez trois figures d'experts, je dirais, qui émergent, dont tu parlais. T'as des gens comme Bauer, c'est très simple, lui il tient un discours apocalyptique sur les cités. Il a un peu des intérêts à le faire, puisqu'il a une boîte de sécurité privée. Donc il dit, c'est quelque chose qu'il dit, il dit tout simplement, il dit voilà, la situation est terrible, j'ai les solutions. Mais c'est cher, et c'est un business très rentable. Hofer, effectivement, et tu as raison, il reformule, c'est quelqu'un qui reformule sur la sécurité ce qu'il peut plus dire sur les immigrés. Parce qu'il a un vieux fond. Et vous avez un troisième pôle d'experts, notamment les commissaires du syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, qui sont... un autre type d'experts qui prédisent effectivement l'apocalypse dans les cités en disant tout simplement bah, il me faut plus de moyens. C'est un syndicaliste policier, mais eux, vous remarquerez, ne sont pas disqualifiés pour corporatisme. C'est des choses intéressantes, des profs qui revendiquent vont l'être, et eux non.
sur Bauer, puisqu'on élargit son CV. Bauer a été consultant pour la NSA et pour la CIA. Il a fait changer de patron de la DST en France. Et il y a beaucoup de choses qui le relient au service secret américain et au service de défense français.
Et il dirige une grande loge française.
Ah, il est en train de dire
grand patron aussi.
Du Grand Orient de France.
Du Grand Orient de France.
Il a un site internet, c'est abassociates.com. abassociates.com. Je vous invite à aller voir et à vous amuser.
Je voulais dire, je pense qu'on est dans une société d'ultra-consommation où le sentiment de sécurité, la peur, c'est quelque chose qui est très facile. C'est vendeur, quoi. Il y a plein de marchés qui en découlent. Et c'est très facile à instaurer. Et ça ouvre la porte à plein de marchés. Je pense que pour faire face à ce problème, à mon avis, ça passe par une prise de conscience que de ne pas se faire avoir par ce sentiment de sécurité, par cette peur, parce que lorsqu'on est sujet de cette peur, ce sentiment d'insécurité, à ce moment-là, on devient facilement contrôlable. C'est un contrôle facile, on fait peur. Non, la peur, c'est quelque chose qui permet, c'est toujours permis à ceux qui veulent le pouvoir de contrôler les gens. En plus, en ce moment, on est dans une société d'ultra consommation, donc bon, ça ouvre la porte à un marché immense, quoi. Donc ça n'a jamais de fin. La seule fin possible, c'est que les gens prennent conscience que ce sentiment et cette peur peut les rendre esclaves.
Sur le sentiment d'insécurité, est-ce que dans les statistiques, ce qui a fait les insécurités, c'est pris en compte?
Est-ce que le sentiment d'insécurité.
Est-ce que les insécurités sont prises en compte dans les statistiques?
Alors, les incivilités ne sont pas prises en compte dans le chiffre policier, mais de plus en plus, les institutions, l'école, les bailleurs sociaux, les transporteurs publics, etc., sont invités à justement développer des grilles d'analyse des incivilités, puisque là-dessus, vous avez eu une importation des théories nord-américaines de la fenêtre brisée, qui disent finalement que si on dégrade un quartier, qu'il y a des incivilités, la situation va empirer et que les choses vont être de plus en plus graves. Ça, vous avez des scientifiques français qui ont importé ça, Sébastien Rocher, par exemple, qui sont des super conservateurs, je dirais, qui ont importé cette idée, finalement, qui est l'idée de Scogan, de la spirale du déclin. Si un carreau est cassé, il va y avoir une spirale du déclin, c'est-à-dire qu'on va passer de la vitre brisée à la criminalité organisée, ou en France, au terrorisme islamiste. Donc ça marque très profondément toutes les politiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'elles sont développées explicitement sur cette question. Je vous ai trouvé le site d'Alain Bauer, si vous voulez.
Dans cette ambiance, pas ici, mais avec l'avancée du néolibéralisme et en fait de cette espèce d'acquisition des richesses sur seulement une poignée de personnes pendant que le reste de la planète crève, et que ce soit en France ou que ce soit plus globalement sur le monde, il y a quand même cette division des richesses, ces inégalités, qui font qu'obligatoirement il va falloir assurer la sécurité des biens. Donc assurer une plus grande sécurité, donc développer ce marché-là. Et donc pousser les gens, par n'importe quel moyen politique, en se servant effectivement des attentats du 11 septembre, pour faire passer des lois qui sont longtemps en sac. À ce moment-là, réussir à imposer la sécurité comme une nécessité, alors que c'est pas forcément... nécessaire, parce qu'il y a des choses plus humaines à développer et se battre là-dessus, c'est difficile. Je pense que pour beaucoup de militants, c'est difficile. Il y a autre chose que je voulais dire, c'est par rapport au racisme que ça a engendré, aux dérives policières que ça a autorisé. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait tuer, qui était noir, qui s'est fait buter par les flics de place de Vichy. Il y a eu une manif, il y avait que 200 personnes. À l'époque de Malik Oussekine, c'était dans d'autres conditions, c'était quelqu'un de plus jeune, il y avait quand même eu beaucoup plus de monde dans la rue. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne circule pas? Est-ce que tout d'un coup les gens se sont renfermés et ont peur? pense qu'il y a vraiment nécessité de solidarité et de comprendre que la position dans laquelle on est, il faut la défendre et il faut essayer d'aller vers des gens qui sont avec des communautés plus grandes, mais de toujours avoir dans l'idée, comme il y a des sociologues aux États-Unis qui se sont rendus compte qu'il y a effectivement des gens qui inventent d'autres formes de vie et d'autres formes de société, mais qui ne sont pas capables encore de se rendre compte qu'ils existent en tant que communauté, parce qu'ils se sont divisés d'une société qui s'accepte. Voilà.
Merci.
Oui, justement, je voulais revenir sur la liberté d'expression des militants, parce qu'on en a parlé en première partie, en fait, du flicage des militants, en fait. Je voulais simplement compléter ce qui avait été dit. On a parlé de la crypto comme alternative, en fait, au problème de flicage. On peut parler aussi des solutions d'anonymat, aussi, comme Freenet, ou le système d'email anonyme, aussi, je crois, qui s'appelle Mixmaster, ou bien d'autres, hein, je crois. C'est vrai que c'est peut-être des solutions qui vont permettre à certaines personnes qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas peut-être lancer un appel à manifester, parce qu'en France, c'est quand même régi la manifestation. C'est quand même régi par des lois bien précises, et on n'a pas le droit de manifester n'importe comment. Il y a des autorisations à avoir, etc. Peut-être en utilisant des systèmes anonymes comme ça, peut-être que les gens s'exprimeront peut-être plus facilement et diront plus facilement ce qu'ils ont sur le cœur que s'ils se sentent fliqués.
À ce propos-là, justement, enfin, je suis bien passé pour moi parce que j'ai fait un atelier hier sur les cryptos et puis ce matin, ce midi, sur comment échapper à la. Enfin, comment. Pourquoi est-ce que la vidéo, la cybersurveillance et la répression de la cryptographie qui est prévue dans la LSQ est inutile et inefficace, et comment on peut passer outre, comment il est possible d'arriver à protéger sa vie privée sans risquer de dommages collatéraux avec la LSQ. Donc ça, il y a un texte qui est sorti sur le site no-zelic.org qui s'appelle LSQ sortie couvert et qui recense comme ça différentes méthodes qui permettent d'arriver à se protéger. Donc justement, pour passer à l'action, vu que là c'est aussi après un débat où on a bien exposé pourquoi est-ce que les débats sur sécurité et liberté étaient, on va dire, faussés, pour rester sur un pléonasme, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça, où on peut rebondir. Il y a une chose que nous on a faite déjà sur le site qui s'appelle lsijoli.net, qui est un projet de saisine citoyenne du Conseil constitutionnel. Ce qui s'est passé avec la LSQ, c'est que la LSQ, les députés, se sont entendus de droite, de gauche, tous partis confondus, se sont entendus pour ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Dans d'autres circonstances, il aurait été clair qu'au niveau des jeux politiques droite-gauche, quel que soit le gouvernement qui amène un projet de loi comme ça, le Conseil constitutionnel aurait été saisi. Et il y a quasiment. Enfin, c'est quasiment certain que le Conseil constitutionnel aurait retoqué la loi. Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans cette loi-là qui ne sont pas conformes aux procédures démocratiques. Donc quand les parlementaires se sont entendus pour ne pas saisir le Conseil constitutionnel, il y a des juristes qui ont planché sur le texte de la LSQ, qui ont pondu une saisine du Conseil constitutionnel, une saisine citoyenne. Et donc, on vous invite tous à aller sur le site ou à signer, pour signer l'appel. Ou allez, il y a également sur la table à l'accueil là-bas, il y a le texte, la saisine, vous pouvez consulter, vous pouvez l'emporter s'il en reste suffisamment. Vous pouvez également le signer. On vous invite également à faire tourner auprès de vos réseaux, auprès des gens que vous connaissez, pour qu'effectivement on se ramène ensuite au Conseil constitutionnel avec suffisamment de signatures pour qu'on puisse essayer de faire valider ce droit-là. Sachant que, pour information, c'est ce que disait Andrémo ce matin, pour information, Mitterrand, dans le programme de 81, il avait prévu la possibilité justement de faire une saisine citoyenne du Conseil constitutionnel en cas de manquement grave au principe démocratique de la part de nos représentants. Enfin, nos représentants. Enfin, voilà, nos représentants. Ouais, juste par rapport à la saisine, parce que Jean-Marc a plusieurs mots dessus. Souvent, les gens qui utilisent Internet ont l'habitude de signer des choses en laissant des pseudos. Comme c'est dans le cadre du Conseil constitutionnel, les gens qui vont signer cette saisine, on vous demande de laisser votre nom et votre prénom et pas un pseudo. Si vous laissez un pseudo, lui ou moi ou d'autres, on va vous renvoyer un mail en disant que vous avez retiré votre signature. Merci de vous intéresser à la question. Néanmoins, si vous voulez la signer,
c'est pas une online pétition.
Voilà, c'est pas une pétition online. Donc, si vous êtes intéressé par quelque chose et vous connectez, essayez d'y penser, c'est votre nom et votre prénom que vous devez laisser, et pas un pseudo internet.
Je rappellerai un dernier truc sur ce que vous avez de retour à 81 et à Mitterrand. Il y a eu une loi qui est passée juste avant que Mitterrand arrive au pouvoir, qui s'appelait la loi Sécurité et Liberté. C'est un père fille qui l'avait fait, qui à l'époque était anti-gauchiste. Vous apercevez aujourd'hui qu'à l'époque, J'ai relu les débats parlementaires récemment. Les députés socialistes de l'hémicycle hurlaient « c'est le Chili ». Aujourd'hui, le gouvernement socialiste fait « la sécurité est la première des libertés ». Je crois que deux chemins parcourus.
Il y a un deuxième truc aussi par rapport à l'action, à des choses qu'on peut faire et qui là, ça peut être aussi assez drôle, je pense, assez festif. En tout cas, c'est comme ça qu'on est quelques-uns à percevoir. C'est ce qui s'appelle le forum de l'insoumission et de la désobéissance. Ça, c'est quelque chose qui est né d'une volonté d'un certain nombre de collectifs et d'associations de se dire que, vu ce qui s'est passé suite aux attentats, vu également que c'est un mouvement de fond qui a commencé même avant les attentats, ça n'a pas attendu les attentats pour passer, ça n'a pas attendu la LSQ, il y a une criminalisation comme ça qui est faite des mouvements sociaux, on est en train de renier sur certaines libertés au nom des impératifs de la sécurité, et en même temps, et c'est ce qu'on montrait tout à l'heure par rapport à la sécurité informatique et la protection de la vie privée, les enjeux de sécurité ne sont pas compris, on ne protège pas notre sécurité informatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à gérer sa sécurité informatique et sa vie privée sur le net. Donc le forum de l'insoumission de la désobéissance, c'est donc plusieurs organisations, collectifs, syndicats, qui font partie des mouvements sociaux, comme on dit. C'est aussi des individus qui ont décidé de mener ensemble 10 jours d'action conjointe. Donc il y a, là, demain, il y a une occupation du DAL. Demain, il y a également ici un concert de soutien à McDo. Demain, il y a une journée d'action contre la vidéosurveillance dans le cadre de la Nausée League. Mais souvent, ces manifestations-là sont faites chacun dans son coin. Il y a des réseaux, mais ce n'est pas vraiment coordonné. Or là, ça va se passer pendant 10 jours, fin février, ça va être coordonné. Et donc, l'idée, c'est qu'on soit un maximum de personnes à faire état d'actes de désobéissance civile par rapport aux lois qui sont passées, par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment par rapport sur les libertés et la sécurité. Pour se renseigner là-dessus, normalement, le site devrait être activé. Je vais aller regarder. C'est http://forum.samizdat.net. Hier, il ne marchait pas. Normalement, aujourd'hui, il marche. De toute façon, il va être mis en branle assez rapidement. Chacun est invité à relayer l'information auprès de leur réseau et à préparer les actions de la sorte. Il ne s'agit pas de faire des choses complètement illégales, la question n'est pas là. La question, c'est de pointer du doigt, justement, les faux problèmes auxquels on trouve, enfin, les faux problèmes qu'on veut nous faire gober et les fausses solutions auxquelles qu'on nous propose d'avaler comme ça tout cru. Et ça réunit des gens à la fois de Droit Devant, du DAL, de Samizdat. Il y a les collectifs de sans-papiers, il y a Souriez, vous êtes filmés, il y a bien entendu des gens qui co-organisent aussi ou qui sont présents ici dans cette Nausée League. Et c'est aussi cette Nausée League, c'était aussi une façon d'initier ce truc-là. C'était un premier jet par rapport à ce forum-là. Donc si vous pouvez en parler et commencer à réfléchir à comment on peut mener des actions, sachant que ce qui serait bien également, je pense à Madame de Tulle, c'est que ce ne soit pas uniquement à Paris, c'est que ce soit vraiment partout en France, parce que c'est... On n'est pas encore au stade européen, mais ça ne concerne pas seulement les quelques petits milieux militants. Je pense que si on a réussi un petit peu ce débat-là, c'est vous faire comprendre que ça touche vraiment tout le monde, ces choses-là. Ça touche beaucoup moins, évidemment, les grands patrons multinationales quand ils blanchissent l'argent. Mais par contre, ça va toucher le petit précaire, qui n'a pas forcément les moyens de se payer son ticket de métro. Ça va toucher l'internaute qui, effectivement, n'aura pas fait attention à protéger ses données personnelles. Ça va toucher donc les petits, les citoyens. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment important d'arriver à ce que ces discours-là, cette bataille sur les mots, sur les concepts, ne soient pas gagnées par le sécuritaire, elles soient gagnées par la notion de liberté.
Et est-ce que les différents participants à cette initiative ont des contacts un petit peu partout, dans différents assos, pour que ça soit éclaté?
On y travaille. Il y a déjà eu plusieurs réunions, il y a déjà plus d'une dizaine ou une vingtaine d'organisations qui sont parties prenantes du projet, il y a un appel qui a été signé. Je vais regarder s'il est en ligne ou pas.
Oups. Donc personne n'a hacké le site de Bauer. Vraiment des petits
joueurs. C'est pas drôle.
Il y avait des spécialistes informatiques en la salle, mais c'est pas drôle.
C'est pas drôle. Il ne s'agit pas de hacker, enfin de pirater, tu veux dire. C'est pas hacker d'ailleurs, c'est pirater. Parce que ce dont tu parles. Mais non, faut laisser, au contraire, là on voit son discours, quoi, c'est important.
C'est con, tu vas faire aussi du Parti Socialiste, c'est la même chose. Oui.
C'est un miroir.
Bon, je sais pas, la page est en train de charger. On va voir ce que ça donne. Comment? Possible, je sais pas. Je sais qu'il y a déjà des contacts en province, il y a un certain nombre de personnes en province, ouais, il n'y a pas que à Paris, quoi. Il y a d'autres organisations.
Non, parce que je pense toujours qu'à la région
on a une antenne là-dessus.
Sur la page, il y a une maison des associations qui s'appelle Poire Rencontre et dans laquelle se retrouvent bras le front, le scalp, le réflexe, etc.
Toutes ces organisations sont parties prenantes.
Les hommes organisent en octobre une journée résistance avec, ils vont venir des intervenants, il y a le banc de fête. Et je pense que autour de ce local, il y a sûrement des gens qui seraient très intéressés par le projet.
Et sinon, donc, dans la foulée, mais là c'est plus particulier à nos énigmes, donc juste petit rappel, parce que ça c'est aussi important, demain matin à partir de 11h, il y a un atelier qui est organisé, ce qu'on a appelé utilisation militante de l'Internet. Ça, grosso modo, on est confronté de plus en plus à des gens qui ont des opinions politiques, qui utilisent Internet pour les mettre en place, mais qui n'ont pas forcément une connaissance accrue de l'Internet, que ce soit des fonctionnements basiques, des mailing lists, des sites web, etc., et également de la crypto. Et il sera aussi question demain de la crypto, qui est un des grands thèmes de cette nos énigmes. Donc c'est à partir de 11h ici. À partir de 10h. À partir de 10h également, il y a un autre. Là, c'est un débat sur des projets solidaires avec le Sud, mais également propre à Internet, pour avoir un accès à Internet, pour arriver à publier des sites web. Donc, c'est les projets AlternC, l'autre.net. Il sera peut-être des questions également de Jitoyen. Parce qu'il ne faut pas penser que Internet, c'est uniquement quelque chose du business. Et en l'occurrence, Samizdat, qui normalement devrait héberger le site, mais apparemment ça ne fonctionne pas, c'est un exemple comme ça d'utilisation non marchande, libre, des nouvelles technologies. Demain après-midi, ce sera une journée d'action contre la vidéosurveillance. Il y aura 4 villes qui vont venir. Ça va se passer dans le local de la CNT, parce qu'ici, il y a un concert de soutien à McDo, aux grévistes de McDo. Donc c'est la CNT, c'est pas loin, c'est 33 rue des Vignoles. Donc il y aura des projections, il y aura des débats, des projections d'action, parce que c'est assez intéressant de voir comment les collectifs anti-vidéosurveillance mènent des actions contre le fait d'être flippé. Et tout ça sera fini, c'est qu'un début, lundi soir, à la Flèche d'Or, 108 Bistrot de Bagnolet dans le 20e, avec la cérémonie de remise des prix des Big Brother Awards. Les Big Brother Awards, c'est un prix qui est remis tous les ans, avec une dizaine de pays qui le font, dont la France, c'est la deuxième fois en France, des prix qui sont remis aux instances, organismes, personnalités, institutions, sociétés privées qui sont illustrés en matière d'atteinte à la vie privée. Et on reviendra sur certains des dossiers qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec Tais-toi.
À propos de vidéosurveillance, pour lutter contre les caméras qui sont très hauts, les copains du troll ont trouvé une méthode, la boule de pétanque.
Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, il y a deux McDo qui se sont mis en place cet après-midi, celui de Saint-Germain et celui d'Opéra, si vous voulez les rejoindre.
Et tout à l'heure, à partir de 19h30, il y aura peut-être un petit peu de retard, là ce sera un peu plus pointu d'un point de vue technique, mais il y aura un atelier sur le contre-espionnage électronique, parce que ça c'est aussi quelque chose, on a parlé de sécurité informatique tout à l'heure, mais l'électronique c'est quelque chose qui est, il y a de l'électronique partout, ça sert aussi bien évidemment à fliquer, et donc ce sera une présentation assez technologique, donc ça ne pourra pas forcément intéresser tout le monde, mais c'est assez drôle, moi j'ai lu le document, c'est assez inquiétant.
J'ai pas du tout profité des débats pour faire de la pub, mais comme il y avait beaucoup d'annonces, en fait, dans le Trégor, il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, le Trégor, c'est pas en province, c'est en Bretagne. Ouais. Pas confondre. Hein. D'ailleurs, je connais pas la province personnellement. Je sais pas ce que c'est. Je suis de passage par hasard. Et en fait, là-bas, on organise un festival de résistance à l'agression policière. Le mot a été pompé sur un truc qui s'est passé ici, je crois, l'année dernière. Enfin, bon, ça s'appelle Frappe, mais c'est pas la même chose. C'est ponctuel parce qu'en fait, il y a des problèmes de répression là-bas au niveau du mouvement naissant des squats sur la ville de Guingamp. Et donc, il y a des personnes qui sont inculpées suite à une action dans les locaux des DF contre les coupures d'électricité, mais aussi contre le nucléaire. C'était présent sur les tracts aussi. Et donc, les personnes dont je fais partie d'ailleurs ont été passées à tabac et mis en garde à vue et inculpées. Pour séquestration, il risque donc une peine maximale, donc après on ne sait jamais ce qu'on aura exactement, mais une peine maximale de 5 ans de prison pour une action qui était une action tout à fait politique et revendiquée comme telle avec tract, banderole. Donc il y a un procès le 25 février qui est un lundi, et donc il va y avoir un festival du 22 au 25 avec deux manifestations, deux rassemblements de manifestations et un maximum, c'est les recherches qu'on fait en ce moment, de débats, d'ateliers, et je vais essayer de choper, c'est ce que je voulais faire, des gens justement pour venir intervenir pour des ateliers. Et si ça intéresse des gens, bien sûr, l'hébergement et la nourriture seront organisés sur place, il y a un centre de convergence qui va être ouvert pour l'occasion, Et il y a des tracts qui traînent là-bas. Voilà. Merci.
C'est juste, d'ailleurs, j'aurais voulu en parler, mais là, tu m'en donnes l'occasion. C'est pour vous montrer aussi un exemple du fichage des militants, de la façon que ça se met en place. On a parlé tout à l'heure du fichage électronique, de l'interconnexion des fichiers entre les différentes formes de police, du fait qu'une cybersurveillance qui est mise en place par rapport aux militants, avec les différents systèmes d'espionnage des télécommunications qui maintenant prennent les militants anti-mondialisation notamment, enfin ce qu'on appelle les mouvements sociaux en tout cas en cible. Et un autre truc qui était intéressant, c'est le fichage génétique. Ça, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place par la LSQ. C'est passé inaperçu. Personne n'en a parlé. Mais en fait, à la base, il s'agissait de mettre en place un fichier génétique des délinquants sexuels. Bon. Il y a eu l'affaire Guy Georges qui est passée par là. Au moment de l'affaire Guy Georges, il y a le père d'une des femmes qui avait été victime de Guy Georges qui a interpellé Marie-Lise Branchu en lui disant « Si vous aviez mis en place avant le fichier génétique des délinquants sexuels, ma fille serait vivante. Qu'est-ce que vous comptez faire ?» C'était à la télévision sur TF1. Elle a dit, on va lancer le débat public. Vous avez raison, ça fait longtemps qu'on parle de ce fichier-là, il faut qu'on en parle au niveau démocratique pour le mettre en place. Il n'y a pas eu de débat démocratique, le fichier a été décidé, et le fichier, c'est pas seulement un fichier des délinquants génétiques, enfin des délinquants sexuels, pardon, c'est un fichier génétique des personnes qui commettent des actes avec violence. Des crimes avec violence.
Des crimes. Tout crime.
Moi, j'en viens là. J'en viens en tout cas par rapport à la Bretagne. Il y a un exemple frappant de ce qui s'est passé. C'est que suite à l'attentat de Quévert, donc un McDo qui a explosé avec une femme qui est morte, il y a eu une vague d'arrestations massive de militants indépendantistes bretons. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées. Ils ont tous été fichés génétiquement. On a prélevé des brosses à dents d'enfants, des petites culottes d'enfants, pour choper le code ADN, parce qu'ils recherchent les auteurs de l'attentat. Donc, normalement, la CNIL prévoit que dans tout fichier de la sorte, il n'y a pas de conservation. La crainte des indépendantistes, c'est qu'effectivement, il y ait une conservation de l'ADN de ces militants. C'est-à-dire qu'eux, ils craignent le fichage génétique politique. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut constater, c'est que d'une part, il y a ce fichage généralisé donc de plus d'une centaine de personnes, et il y a également un autre truc qui est les incarcérations abusives, on va dire, au sens où il y a Robert Solé, par exemple, qui est un militant indépendantiste, qui est en taule préventive depuis plus de 4 ans, qui est malade et qui ne peut pas avoir accès aux soins. Donc, quel que soit ce qu'on pense de la cause indépendantiste bretonne, la question elle n'est pas là. La question c'est celle des droits de l'homme et des libertés et de l'état policier, de ce qui est mis en branle en ce moment. Et ça, ils n'ont pas attendu la LSQ. Le fichage dont je parle, génétique dont je parle, c'était l'an passé. Évidemment, quasiment personne n'en a parlé. Et là, sur l'extension du fichier génétique, qui est un mouvement qui n'est pas seulement français, qu'on a vu aux États-Unis, c'est très très développé, mais c'est vraiment en train de se mettre en place. Donc, fichage des identités, fichage au niveau électronique, fichage au niveau génétique, fichage commercial, fichage militant. Bon, bon profil.
D'ailleurs, à l'occasion de ce festival, il y a des gens de la coordination anti-répressive de Bretagne qui participent bien sûr à ce festival. Et ce sera l'occasion pour les gens qui ne sont pas au courant justement de plus de détails sur les problèmes qu'ont eu les prisonniers politiques bretons, de toutes ces histoires et beaucoup plus effrayante encore qu'ont eu et les problèmes qu'ont les prisonniers politiques bretons, pas en Bretagne, qui sont incarcérés à Paris, mais j'en ai entendu beaucoup d'autres, et il y a des gens qui s'y connaissent du coup assez bien, il y a des gens qui connaissent bien justement les mesures d'exception liées aux lois antiterroristes qui un jour peut-être s'appliqueront les gardes à vue spécifiques aux lois antiterroristes. Et justement, c'est un sujet qui revient souvent, la question des empreintes
génétiques. La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme sur la législation antiterroriste qui est actuellement en vigueur, sachant que cette législation antiterroriste est donc en ce moment renforcée. Donc la France est déjà condamnée, mais au lieu de s'amender et effectivement de faire passer la loi de présomption d'innocence, et c'est pour ça d'ailleurs que la loi a été prévue pour justement répondre aux condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, là, il y a encore une modification de la loi sur la présomption d'innocence et un renforcement de la lutte antiterroriste. Et les pouvoirs qui sont donnés à la DNAT, qui est la Division Nationale Antiterroriste, et aux juges antiterroristes, sont vraiment, vraiment très, très importants. C'est assez puissant. Ils sont très forts, on va dire. Enfin, forts. Il ne faut pas être victime, quoi. Enfin, victime. Faut pas se faire choper par eux. Pareil, en termes de journalistes, il y a eu plusieurs journalistes l'an passé qui ont été arrêtés par la DNAT parce qu'ils avaient été en lien avec des terroristes, ou en tout cas des organisations terroristes plutôt. Les journalistes, on a saisi leurs ordinateurs, on a saisi leurs fichiers, alors qu'à la base, un journaliste, il a droit au secret. Enfin, il peut se permettre de dire à un juge, non, je dois protéger mes sources. La DNAT, elle prend l'ordinateur, et elle interroge, et elle incarcère, et elle met en détention des journalistes. Enfin, c'est quelque chose qui, si réellement la législation antiterroriste continue de la sorte, c'est vraiment pas très, très rassurant du tout pour ceux qui ont une position politique à afficher, à affirmer, à revendiquer. Tu prends une bière ? Mais le plus important, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas déprimer, c'est le forum de la Suisse. On va s'éclater.
Moi, je vais plutôt vous parler des médicaments, sur le sida, en sachant qu'on est dans un autre domaine, puisque nous, on n'est pas vers la brevet. Enfin, les brevets, nous, les brevets, ça fait un sacré moment que ça y est, et nous, dans un domaine, donc, en gros, la clé de voûte de l'industrie pharmaceutique et la diffusion de médicaments, c'est le brevet. C'est le brevet et la notion de prix, c'est là-dessus que se fonde l'industrie pour diffuser ces médicaments, avec l'idée, alors il y a l'idée d'innovation, mais c'est surtout l'idée qu'ils ont investi beaucoup pour rechercher une molécule, un traitement. Le brevet, le moyen pour eux, hein, je reprends l'argument de l'industrie pharmaceutique et je vous montrerai qu'il est complètement faux, mais leur argument, c'est de dire le brevet, c'est le moyen de se rembourser de frais d'investissement et de vivre un peu. En fait, le brevet leur permet surtout d'asseoir leur logique capitalistique et d'assurer à long terme des profits. En sachant que c'est des brevets qui sont donc pour 20 ans, mais 20 ans en tant que pathologie, c'est extrêmement long. Et en 20 ans, on a le temps vraiment de se rembourser ses frais de recherche. Voilà pour le domaine général du brevet sans médicament. Maintenant, pourquoi dans la crise du SIDA, il y a vraiment quelque chose de complètement scandaleux? En fait, là, il faut revenir sur le contexte de l'épidémie, vu que 45 millions de personnes dans le monde sont touchées, et qu'il y a à peu près seulement 10% de cette population qui a accès à un traitement. Donc il y a déjà 90% de cette population qui n'a pas accès à un traitement des villages. La deuxième chose, c'est que si nous, donc des groupes activistes comme ACT-UP, on est beaucoup là-dessus aujourd'hui, c'est parce que dans l'épidémie de SIDA, quelque chose qui a totalement changé les choses en 1995-1996, c'est l'arrivée de nouveaux types de molécules, les antiprotéases, qui, lorsqu'elles sont utilisées avec des molécules anciennes, des années 87-88, permettent non pas de guérir le sida, mais en tout cas de ralentir l'avancée dans la maladie et de faire baisser significativement les chiffres de la mortalité. Hein. C'est indéniable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH quand on a des traitements permet d'avoir une espérance de vie plus de 1 an ou 2, mais plutôt de 15 ans. Et de pouvoir peut-être construire un peu sa vie. Et donc, une chose assez essentielle qui nous a emporté, mais qui a aussi emporté beaucoup de groupes activistes dans les années 96-97, ça a été de dire que maintenant, dans les pays du Nord, on avait réussi à avoir ces médicaments qui existaient, il fallait qu'on fasse tout pour les mettre dans les pays du Sud. Et c'est là, en fait, qu'on a découvert le brevet, parce que je vous avouerai auparavant, on s'était vraiment jamais posé la question. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que les premiers brevets vont tomber pour la ZP, qui est la molécule la plus ancienne sur le sida, donc la molécule la moins efficace. Elle va tomber en 2006. Et pour les antiprotéases, donc des molécules extrêmement efficaces et importantes, le premier tombera en 2013. On a le temps, si on attend que le brevet tombe, on a vraiment le temps de laisser le monde se ravager. Et ces choses-là se comprennent dans un contexte où un grand nombre d'États ont signé des accords APIC, donc des propriétés intellectuelles, Et là, actuellement, il y a en fait depuis 3-4 ans, beaucoup de pression de la part des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne, envers les pays d'Afrique et d'Asie, pour qu'ils se rattachent à l'OMC, qu'ils signent les accords ADPIC, et par ailleurs, qu'ils réforment la convention de Bangui qui concerne les pays d'Afrique, qui est également là-dessus. Puisque, par miracle, certains pays soit n'avaient pas adhéré aux accords ADPIC, c'est le cas du Brésil, hein, qui aujourd'hui va rentrer dans une nouvelle phase FOMC, mais qui, il y a 10 ans, n'y était pas. C'était le cas de la Chine encore récemment, et j'y reviendrai. Et puis, dans d'autres pays, des laboratoires pharmaceutiques ont oublié de déposer leur brevet. Parce qu'ils se disaient, on ne va pas déposer un brevet en Côte d'Ivoire, de toute façon, personne ne va développer le truc. C'est ce qui s'est passé en Thaïlande. Où en Thaïlande, Bristol Myers Squibb a oublié de déposer un brevet sur une molécule super importante, la DDI. Ce qui fait que dans les années 96, où quand même on avait ces nouvelles molécules arrivées, il y a des États, c'est en fait des pays émergents, tels que le Brésil ou la Thaïlande, qui ont envisagé, et là c'était dans des politiques publiques, hein, à l'époque, c'était les États qui ont cherché à mettre ça en place, ont envisagé de faire de la copie de médicaments. C'est quelque chose de très classique dans le monde du médicament. L'industrie pharmaceutique, on va dire classique, les gros labos en font eux-mêmes, hein. Ils copient eux-mêmes leurs médicaments, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient que leur brevet va tomber, ils développent un médicament générique, donc par des biais juridiques, et pour envisager la suite et pour sauvegarder leur profit. Mais sur le VIH, ils sont toujours restés dans l'idée de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on développe une molécule, on la vend très cher. On la vend le même prix à tous les pays, quel que soit leur PIB, et on attendra, on verra ce qui se passera quand les brevets vont tomber dans longtemps. Ce qu'ont fait le Brésil ou la Thaïlande, c'est qu'ils se sont dit pourquoi on n'utilise pas les accords de propriété intellectuelle quand on y adhère, ou on n'utilise pas le vide juridique dans lequel on est pour copier ces médicaments. Et c'est ça qu'on appelle le médicament générique, c'est-à-dire copier. Donc on réutilise la formule chimique qui est la molécule et on la copie. Sauf qu'évidemment, on n'a pas les frais de recherche fondamentale derrière, et donc les prix sont totalement divisés. Donc par exemple, l'AZT, produit par Glaxo, maintenant c'est... non, c'est plus Welcome, c'est Glaxo, SmileKline, donc c'est GSK. Les laboratoires brésiliens ont fait baisser le prix de 90%. Et une trithérapie qui, il y a encore quelques années, coûtait à peu près 7 000 $, dans 7 000 francs, donc 1 000 dollars à peu près. Maintenant, les laboratoires indiens et brésiliens nous la proposent à 280 dollars. Et ils font du profit en vendant 280 dollars. Et ils sont dans des respects de normes sociales. Enfin, vous ne croyez pas que c'est parce qu'il y a aussi un passe de normes sociales, c'est surtout parce qu'il n'y a plus d'utilisation de ce brevet. Donc évidemment, ce qu'on fait à l'industrie pharmaceutique entre 96 et 98, c'est ignorer ce qui se passait à côté. Ignorer la politique du Brésil, de l'Inde, de la Thaïlande. Et puis d'un seul coup, ils se sont rendus compte que les médicaments génériques marchaient, que les activistes les demandaient, que ça permettait de montrer qu'il était possible de soigner des gens même quand il n'y a pas d'argent dans un pays. Parce qu'on peut, déjà quand vous pouvez soigner 10 personnes et en soigner une, et bien on se rend compte que ça peut faire des choses. Et puis en plus, ils avaient mené toute une bataille pour dire médicaments génériques, c'est de la copie de merde, c'est de la mauvaise qualité, ça va tuer des gens. Ils se sont rendus compte que dans le VIH, il y a très peu de labos qui en font dans les pays les clients anti-VIH, ce sont des copies de qualité. Parce qu'il est vrai, il ne faut pas le nier, il y a eu beaucoup de problèmes de vaccins copiés dans les années 80-90, notamment en Afrique, qui ont conduit à la mort de centaines de personnes. Donc la copie mais de médicaments quand elle est mal faite, ça amène à la destruction de la vie, c'est très clair. Mais là, en ce qui concerne le VIH, elles sont efficaces parce qu'elles sont très bien faites. Et elles sont soit faites par des laboratoires privés, donc c'est le cas de Cipla en Inde, qui le fait en tant que laboratoire privé, soit elle est faite par des industries publiques, c'est le cas au Brésil, puisque c'est les industries pharmaceutiques publiques qui l'ont fait. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais juste vous dire un truc, parce qu'il ne faut pas non plus être trop naïf. Actuellement, nos ennemis, c'est l'industrie pharmaceutique classique. Mais ne croyez pas que l'industrie pharmaceutique qui fait du générique est tout aussi philanthropique. C'est pas vrai. Par exemple, Cipla, qui vend sa trithérapie à 280 $, veut bien vendre sa trithérapie à 300 $, mais pas en Inde, qui est quand même un des pays les plus touchés d'Asie. Ce qui fait qu'en Inde, on n'a pas d'accès au traitement.
Pourquoi ?
parce que Cipla veut les vendre à des pays qui vont payer. Donc même là, on retrouve quand même l'idée qu'on vend des molécules, mais on fait du marchandage sur la vie des gens. Donc si je dis ça, c'est parce que même pour nous, c'est des choses un peu compliquées. C'est-à-dire aujourd'hui, par notre combat d'activistes, on a quand même ouvert le marché des médicaments génériques. Bon, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en rapport des acheteurs et des vendeurs de médicaments. On a mis en rapport les vendeurs au Brésil, Thaïlande et Inde lors d'une conférence avec des pays d'Afrique qui voulaient acheter. Donc on sait très bien que dès que les médicaments arriveront vraiment dans les pays, il faudra aussi se battre contre l'industrie pharmaceutique de générique, qui elle aussi, à mon avis, de manière fonctionnée, pas très claire. Mais bon, il se trouve que pour l'instant, ils font des trithérapies à $300. Et évidemment, ce qui s'est passé, dès que ces trithérapies ont commencé à avoir le jour, à être reconnues, que Médecins Sans Frontières les a testées, s'est rendu compte que c'était les mêmes choses que les thérapies classiques. Ce qui s'est passé, bah, très simplement, là, les États-Unis et l'Union européenne, qui sont les deux qui se sont le plus attaqués là-dessus, puisque c'est même leur industrie qui est attaquée, ont décidé qu'à défaut de pouvoir gagner sur le terrain de la communication en disant que c'était des médicaments de merde, ont choisi la voie juridique. En pensant, et ils pensaient vraiment qu'ils allaient gagner. C'est comme ça qu'on a abouti à deux choses. D'une part, à un procès, vous avez entendu parler, en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que lorsque la Constitution a été adoptée en 1998, c'est un pays qui a transposé une idée qu'il y a déjà dans les accords APIC de 1995, qui est de dire que bon, les accords APIC disent il y a un brevet pour les médicaments, on peut passer outre ce brevet dans trois cas. Si le laboratoire accorde des licences volontaires, donc il accorde une licence à une personne particulière contre argent, soit en faisant des importations parallèles, c'est un système un peu compliqué que je vous expliquerai. Soit en utilisant des licences obligatoires. Et le terme même de cette exception à la propriété intellectuelle, c'est de dire dans le cas où le pays a une nécessité de santé publique, une urgence de santé publique. Donc théoriquement, pour le VIH, on devrait pouvoir faire sauter tout le système de la propriété intellectuelle. C'est peut-être la seule chose valable dans ces accords, d'ailleurs. Ça nous protège en fait vachement. Et ce qui s'est passé, c'est pas en Afrique du Sud, cette idée a été développée. L'Afrique du Sud est un pays assez, une industrie quand même pharmaceutique assez développée. Et par ailleurs, c'est le pays d'Afrique le plus touché, puisqu'il y a à peu près 10% de sa population qui est touchée, et on arrive dans des régions où c'est 30%. C'est quand même une catastrophe complètement dingue. Et ce qu'ont proposé des industriels et des activistes, et pas les Sud-Africains, c'est d'adopter une loi qui permette la copie de médicaments, donc de transposer dans le droit national une copie de médicaments. Ce qui s'est passé dès que cette loi a été adoptée, c'est que 40 industries pharmaceutiques, vous vous y rendez compte, 40. Dans le sida, il y en a seulement, il y en a 10 de gros, c'est-à-dire que toute l'industrie pharmaceutique mondiale a fait une coalition, ils ont été portés plainte à Pretoria contre cette loi. En se disant, et c'est là où vous vous rendez compte de l'arrogance en fait de cette industrie, c'est que elle a dit, en faisant ce combat là on fait un combat pour la vie dans un pays où 10% de la population crève du sida, hein. C'est un pays pour que vous ayez un peu une image, c'est un pays actuellement on ne sait plus où enterrer les personnes. On est arrivé à ce niveau là de catastrophe. Alors évidemment, c'est facile en plus de faire une plainte dans ce pays parce que le gouvernement sud-africain n'a pas une position très claire sur le VIH. Le président est un peu dans des thèses un peu négationnistes sur le VIH. Ce qui fait que c'est un...